Bonjour à tous et bienvenue sur Parasquad, le podcast du parachutisme. Je suis Quentin Duhaillon, parachutiste et passionné de parachutisme. Et aujourd'hui, nous allons rencontrer un parachutiste exceptionnel qui va nous partager sa vie à 4000 mètres d'altitude. Pour cet épisode, nous vous offrons la possibilité de gagner un Fudo Chin Mount, qui est un support caméra pour les casques Cookie G4 et G3. Pour participer et connaître toutes les instructions, rendez-vous sur nos réseaux sociaux Parasquad Media. Sur ce, je vous laisse avec notre invité du jour. Alors, prenez votre altimètre, enfilez votre parachute, on décolle. 3, 2, 1. Bonjour Greg.
Yes, salut Quentin, merci de me recevoir.
Comment tu vas?
Super bien. Je suis trop content, j'enchaîne plein de trucs très très cool en ce moment.
Est-ce que tu pourrais un peu rapidement te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas?
Yes, eh ben, je m'appelle Greg Crozier, je suis champion du monde de parachutisme artistique, donc de free fly pour les paras, et puis pour les non-sautants, du parachutisme artistique. Donc à chaque fois j'explique, il existe deux catégories, le freestyle ou le free fly, et voilà, plus communément, si vous voyez une personne à l'écran, c'est du freestyle, et si vous en voyez deux, c'est du free fly.
On reviendra sur ce côté beaucoup free fly, parce que j'ai plein de questions par rapport à ça pour toi. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, tu as 9500 sauts.
Oui, c'est précis, c'est bien.
Ce qui représente 160 heures dans le ciel.
Ah ouais, t'as compté, ouais.
Cool. T'as plus de 3000 heures en soufflerie. Mm-hmm. Si on revient, on va dire, aux prémices de tout ça, au début, comment t'as découvert, toi, le parachutisme et qui t'a poussé aujourd'hui à faire ton premier saut?
Ah, c'est Patrick Swayze. Alors, c'est une question qui revient souvent. Il faut savoir que, à mon sens, il y a deux façons de se mettre au parachutisme. Et c'est marrant parce que Karine Jolie, c'est ma compagne, on a vécu tous les deux les deux façons différentes. Donc, soit c'était le cas de Karine, on t'amène faire un baptême un jour, et puis alors du coup, t'as un déclic de fou, t'as une émotion tellement forte, tu dis waouh, faut que je fasse ça, faut que ça fasse partie de ma vie. Soit, comme moi, tu vois un film où tu rencontres quelqu'un, ça peut être aussi un truc, mais t'as un visuel qui fait que, ah ouais, c'est un truc de fou, et t'as même pas besoin de sauter, tu sais que ça va faire aussi partie de ta vie. Et moi, en l'occurrence, c'était le cas, donc j'étais ado, et il y a eu cette période-là, entre 90 et 2000, là, il y a une période où vraiment, il y avait le concours des films qui allaient intégrer les scènes les plus dingues possibles de chute libre. Et donc, je fais plus la liste parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais voilà, moi, tous les films que je voyais avec des scènes de chute libre me rendaient complètement dingue et je savais que ça ferait partie de ma vie.
J'ai pu entendre dans une petite interview que c'est pas ton premier saut qui t'a vraiment marqué, c'est un des suivants. Pourquoi c'est pas le premier et c'est lequel du coup?
Ah oui, c'est intéressant. Alors, moi j'avais 16 ans. Alors, je me renseigne, je suis ado, je me renseigne pour sauter, je comprends qu'il faut avoir 16 ans, donc il faut attendre 2-3 ans, tu vois. Du coup, je convainc mon meilleur ami de venir avec moi, Fred Plaquesi, et du coup, on va tous les deux faire ce stage de formation en saut automatique. À l'époque, c'était plus courant de faire des sauts automatiques, c'était moins cher, la formule existait encore bien, elle tend à disparaître maintenant. Et du coup, comme on avait que 16 ans, notre moniteur, il savait qu'il fallait quand même y aller doucement avec nous, tu vois. Donc, il avait pris soin, et j'ai trouvé ça vraiment bien, de dire... Si vous voulez, vous pouvez faire le choix au début de vous couper un petit peu volontairement de vos émotions pour pouvoir arriver à survivre au choc émotionnel qui est de sauter d'un avion. Surtout que là, on saute à 1000 mètres. Entre 1000 et 1200, ça dépendait, mais voilà. Entre 1000 et 1200 mètres, la porte s'ouvre. En plus, c'est la porte qui s'ouvre comme ça, donc c'est hyper impressionnant. Comme c'était un Cessna 185, toi, tu es allé sur tes genoux à quatre pattes, là, te mettre en place, mais ton moniteur peut même pas t'accompagner. Lui, il doit rester derrière le pilote, il n'y a pas la place. Donc, tu es vraiment tout seul, comme un con, au bord de ta porte, avec la roue que tu vois qu'ils ont dans le vide. Et ça, c'est ton saut numéro un, toi. Donc, c'est vraiment... faut en vouloir, toi. Donc, il savait un petit peu tout ça. Il nous avait dit, répétez peut-être même plus s'il faut, répétez aussi mentalement énormément. Et puis, si vous commencez à avoir un peu peur à un moment donné, vous pouvez faire ce choix-là de dire, allez, je suis un robot, une machine, un guerrier, ce que tu veux, ce qui va t'inspirer à ce moment-là. Mais voilà, tu fais exprès de dire, j'enchaîne sans trop réfléchir, volontairement. C'est pour ça, si tu veux, que ça reste un souvenir, si tu veux, je laisse premier saut. Mais c'est comme si je l'avais vécu de l'extérieur un petit peu, tu vois. Tellement je voulais pas avoir peur, quoi. Bon, du coup, ça n'a pas marché, j'avais super peur. Mais okay. J'ai fait quand même 2, 3, 4 sauts comme ça, en étant vraiment en mode répétition, machin, parce que je voulais tellement être parachutiste que j'ai dit, quoi qu'il arrive, faut que je m'accroche. Et c'est une formule qui fait quand même peur. Moi, j'ai fait 8 sauts au total. J'en ai fait 6 en 97 et puis j'ai rattaqué après en 98. Donc j'ai commencé la chute libre vraiment qu'en 98. Et après, tu as toutes les étapes. Alors tu les connais peut-être même pas. Mais tu montes à 1005, tu dois compter 10 secondes. T'en fais un ou deux, je sais plus combien. Après, tu montes à 2000, tu vas compter 20 secondes. Et puis après, 2005 et 3000 et enfin 4000. Donc ça se mérite le 4000. Hein. Nous, à l'époque, voilà, fallait ceux qui étaient encore là, qui ne s'étaient pas barrés parce qu'ils avaient trop peur. Ouais. Je peux dire, quand ils arrivaient à 4000, ils étaient fiers, quoi.
Et ce premier saut qui t'a marqué, c'est celui, du coup, le premier à 4000 ou c'est un à 2000
tous,
hein, entre deux?
Tous, mais il okay. y en a plein. Parce que moi, il faut savoir aussi que le premier mec que je vois en chute libre en face de moi, j'ai pas loin de 40 sauts. J'ai jamais vu un mec en chute libre, okay. comme on peut l'avoir en saut pack. En saut 1, on voit déjà un mec qui évolue à côté de nous ou en face de nous. Ou du moins en saut 2, là, ça devient très évident. Dans ce genre de formation, même ton brevet A, ton brevet B, il n'y a pas de suivi vidéo en chute, c'est tout du sol, c'était tout seul pendant très longtemps. Donc si tu veux, il y a plein de sauts qui sont énormes et qui restent des sauts que tu n'oublies jamais. Alors mon premier 10 secondes, j'en parle beaucoup aussi de celui-ci. Le premier saut 10 secondes, tu dois compter jusqu'à 10, tu sens vraiment une accélération de dingue que j'ai quasiment pas ressenti après. Hein. Même dans des sauts beaucoup plus techniques, avec beaucoup plus de vitesse que j'ai pu vivre après dans ma carrière, l'accélération que tu fais quand tu fais ton premier saut à 1005, d'habitude, ton éloignement avec l'avion déclenche l'ouverture de la voile et là, il n'y a rien. Tu as l'impression d'être un peu tout nu d'ailleurs dans le ciel alors que tu as quand même ton parachute. C'est une émotion que les parachutistes d'aujourd'hui ne connaissent pas. Et tu sens, en plus, tu cambres comme un malade parce que tu veux être sûr de ne pas faire des orientations parce qu'on dit tu peux te mettre à tourner si tu n'es pas vraiment. Donc tu cambres, je pense que tes pieds ils sont juste derrière tes oreilles. Là. Ouais. Donc t'es juste une balle de revolver dans le ciel. Là, ça va très vite. Et ce saut était dingue. En plus, je suis obligé de le rajouter. Il y avait cette contradiction vraiment dingue d'avoir cette sensation double, toi, de se dire à la fois je suis une poussière, tu vois. C'est-à-dire, là, si je vais m'écraser là, dans la forêt en bas, il n'y a personne qui se saura, tu vois. Je suis vraiment tout petit dans le ciel. Et en même temps, d'être au-dessus comme ça de la planète, tu as une impression de super-héros ou de divinité, tu vois. Tu es au-dessus de tout le monde. Et c'est très bizarre, cette contradiction d'émotion. Et comme tu es tout seul. Je pense que tu la vis. Peut-être que dans le saut numéro 7, quand tu fais ton solo ou quoi, tu peux vivre aussi un truc de similaire. Peut-être. Donc ce saut, il m'a vraiment beaucoup marqué. Mon premier 2000, c'était un hasard. On était à Saint-Galmier. J'ai commencé à Saint-Galmier. Et le pilote a oublié. Ça arrive, tu vois. Et puis on est à 2005, il y a quelque chose. Et puis le moniteur, il fait mais t'as oublié, machin. Donc il a fait une boucle. Et ils m'ont largué à 2007. Mais du coup, si tu veux, je suis passé de 1005 à 2007.
Ça fait où?
Ah, moi, j'ai l'impression que je faisais un 6000 mètres. Hein.
Exactement.
C'est ça qui est dingue. C'est pour ça que tout est relatif dans ce sport. Ouais. C'est que tu as des trucs, des fois, qui vont te sembler dingue et qui, pour quelqu'un d'autre, c'est normal et vice-versa. Donc voilà, mon premier 2007, c'était aussi dingue. Parce que du coup, le moniteur a dit, bah écoute, là, tu fais à l'altimètre. Hein. Donc ça s'est un petit peu improvisé, un petit peu nouveau plan de saut. Genre, t'es tellement haut. Et je sais plus, mais la chute libre, j'ai l'impression que j'ai chuté 15 minutes. Toi. Voilà. Donc. Il y a plein de sauts que j'ai vécu qui étaient dingues dans ces 40 premiers sauts. Quoi.
Ouais, je te comprends, mon 7e saut aussi, j'étais raide comme un bâton, j'ai l'impression qu'il a duré une heure, j'étais stressé. Quand le parachute s'est bien ouvert, j'étais le plus heureux du monde et j'ai crié toutes mes forces, donc c'était incroyable.
Ouais, on crie beaucoup dans ce sport.
Exactement.
Faut le dire, il y a des gens qui doutent, si, si tu le dis pas, tu mens.
Exactement, exactement. Pour en revenir un peu ce qui t'a attiré vers ce sport, j'ai pu lire un peu que ton papa était pilote d'avion et de montgolfière, si je me trompe pas. Est-ce que c'est lui aujourd'hui qui t'a donné le goût du ciel?
Il y est forcément pour quelque chose, mais alors c'était déjà rare hein, parce que j'ai pas forcément trouvé beaucoup de copains qui avaient un parcours équivalent. C'est rare d'avoir un papa qui faisait ça. Donc lui, il a une opportunité à 16 ou 17 ans. Il y avait un programme vraiment pas cher, accessible pour les jeunes, et il avait fait son brevet de pilote. Donc il pouvait piloter des avions avant d'avoir le permis de conduire. C'est assez atypique, hein, vraiment. Et du coup. Bah, il en a toujours fait un petit peu pour avoir maintenir sa licence, si tu veux. Et il a commencé à m'emmener, je devais avoir 5 ans, 6 ans, ouais, max. Donc ça m'impressionnait beaucoup, voire ça me faisait un peu peur. Donc je le faisais parce que j'avais bien conscience que c'était un privilège, mais j'avais pas, si tu veux, je me disais pas chouette, je vais voler. Je disais ok, on va dans un avion, c'était hyper impressionnant. À chaque fois, au bout de 10-15 minutes, ça y est, je commençais à être bien, à regarder un peu partout. Mais tu sais, c'est les DR400, quand t'es petit, tu vois... pas grand chose, enfin c'était pas si pas si évident d'apprécier en tout cas. Et il s'est mis après à faire de la montgolfière en plus. Et là il a encore plus accroché. Donc il faisait beaucoup montgolfière avion. Et si tu veux, moi quand j'ai eu ce déclic là avec les films américains, c'était complètement parallèle à ça. Je pense que même s'il m'avait jamais emmené en avion, j'aurais eu ce déclic là si tu veux, puisque j'avais pas cette relation en tout cas avec l'aéronautique. Mais j'ai quand même envie de dire que ça a contribué dans un sens, parce que j'avais quand même du coup peut-être moins peur de le faire, ou j'avais peut-être plus osé aller voir un paraclub, demander des renseignements, je sais pas. Ça a forcément joué un rôle. Mais en tout cas, voilà, mon père, il a eu une grosse carrière dans l'aéronautique, et ce qui est très drôle, parce qu'il a fait 25 ans compétiteur en montgolfière. Alors des gens ne le savent pas, mais il y a des compétitions en montgolfière, je vous expliquerai tout à l'heure, il y a des trucs de fou à faire en montgolfière. Et lui, par contre, étant pourtant fan d'avions et de montgolfière, il pouvait pas blairer le parachutisme. Pour lui, c'était une aberration de sauter d'un avion. Il nous appelait les enclumes. Pour lui, on volait pas, on faisait que tomber comme des cailloux. Et je suis jamais arrivé à le convaincre de faire soit de la soufflerie, soit un baptême. Rien.
Il a jamais fait un saut en parachute.
Non. Et du coup, c'est dingue parce que tu dis, le mec, il avait des centaines et des centaines d'heures, peut-être même des milliers, parce que ouais, il a même des milliers d'heures. Et impossible de le faire sauter d'un avion ou de faire au moins de la soufflerie, tu vois. Mmh. Donc, pour montrer à quel point, vraiment, pour lui, c'était pas un sport, quoi. C'était particulier au final.
Ok. C'est dingue parce que aujourd'hui, même avec toutes les vidéos que tu peux montrer sur les réseaux sociaux qui sont incroyables, n'hésitez pas à aller suivre Greg surtout sur les réseaux, c'est super. Les vidéos sont hyper impressionnantes, je dirais.
Ah bah merci.
Avec tout ce que tu mets sur les réseaux sociaux, c'est dingue quand même qu'il n'y a pas cette petite assurance de dire mon fils est devenu, on en reviendra plus tard, champion du monde. Au moins ressentir cette sensation.
Ah ouais, ouais. Si, je pense, ouais. Non, mais la fierté, elle était forcément là. Mais si tu veux, refuser d'admettre que c'était un sport, ça, c'était
okay.
Ce truc. Ouais, okay. Je sais pas comment dire le mieux, ouais.
Okay.
C'est bizarre, hein, mais je t'avoue que c'est un truc bizarre. Hein. C'est un truc bizarre.
Ok. En 98, tu vraiment commences le parachutisme à Saint-Galmier, ce que tu me dis, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts dans le parachutisme, de tes 100 premiers sauts? Est-ce que... suite aux vidéos de ce qu'on voit aujourd'hui, t'es tout de suite bon.
Ah ouais, alors non, non. Je pense que j'ai un peu le même parcours. Il y avait Patrick de Gaillardon, je ne sais pas si tu connaissais aussi. D'accord. Alors, je sais que lui, il a eu un départ aussi. C'était plus de l'assiduité que du talent au début, tu vois. Alors, moi, ce n'est pas que j'étais bon ou pas bon, mais quand t'as 16 ans, tu ne sais pas si t'es bon ou pas. En plus, comme je te disais, t'es pas vraiment filmé, tu vois. Tu fais plein de sauts tout seul. Donc, j'ai eu un démarrage vraiment... Enfin, il n'y a rien de spécial dans mon démarrage. J'ai commencé à faire des sauts après le B2. J'ai commencé à faire des sauts à 2 ou à 3. Mais encore une fois, on était dans une structure où c'était un petit avion. Tu vois, on était 4, 5 ou 6 des fois dans l'avion. D'accord. Et il y avait toujours un tandem ou quelque chose. Donc, moi, j'ai fait des tout petits sauts très longtemps. Donc, pas de quoi savoir si tu étais bon ou pas. En plus, j'étais plutôt lourd à l'époque. Donc, j'étais étalé pour suivre les autres. Donc, rien pour apprécier le niveau technique. Après, je faisais beaucoup, beaucoup de sport à côté. J'ai toujours eu une carrière sportive hyper intense. Donc, j'étais en sport foot, plus en club en foot à côté. Donc, j'avais double dose de foot. J'étais en karaté et j'étais en natation. Donc, j'étais... voilà, je m'arrêtais jamais. Donc, voilà, ça a évolué, si tu veux, en même temps, la carrière para. Le para, c'était... C'était pas un truc où je me défoulais, mais c'était un truc de liberté à ce moment-là. Tu vois, c'était, ouais, je vis un petit peu ce que je voyais dans les films, les super-héros, les agents secrets, tu vois, les Tom Cruise, des trucs comme ça. C'était mon moment un petit peu, tu vois, agent spécial, tout ça. Et ça avançait tranquillement. Petit à petit, le niveau venait aussi, mais c'était vraiment très, très progressif. Et c'est, je pense que c'est à Lyon, quand j'ai commencé à sauter à Lyon, avion 10 places. Il y avait un très bon niveau de free fly à l'époque déjà. Il y avait Olivier Venot et Tommy Mangin qui sautaient beaucoup, qui étaient très très forts, qui animaient vraiment le club au niveau justement de la 3D, du free fly. Et là, j'ai commencé à sauter avec eux. Donc là, pouf, d'un coup, ça a démarré très fort. Et puis, il y avait mon pote. J'ai commencé à faire de la colocation à Lyon parce que j'étais en fac de sport. Et un de mes meilleurs amis, Hugo Peraldo, on était en colocation et puis on sautait aussi ensemble les week-ends. Donc là, ça commençait à monter enfin. Et puis c'est la rencontre avec Karine qui a changé tout le truc.
On en reviendra.
Ok, je laisse.
On en reviendra à ça. comme tu dis, il existe, justement, tu as parlé de free fly. Il existe plein de disciplines dans le parachutisme. J'imagine que tu les as peut-être tous essayés. Le vol relatif, le voile contact, précision d'atterrissage, pour ceux qui ne connaissent pas. Tu décides de t'orienter du coup vers le free fly ou freestyle, comme tu le dis, une discipline artistique. Pourquoi ça aujourd'hui, pourquoi tu t'es dit le free fly? Est-ce que peut-être tu voyais des gens sauter en free fly et tu te disais je veux essayer?
Ouais, c'est voilà. Exactement ça. Et je pense que c'est le cas de 99% des gens. Moi, c'était vraiment clairement, je voyais un petit peu tout ce qu'il y avait. Alors, encore une fois, Patrick de Gaillardon, J'avais plein de posters de lui. On voyait beaucoup de wingsuit, mais je voyais bien que c'était aussi pour un côté promotionnel. Toi, il faisait la wingsuit dans le Grand Canyon. Il faisait le skysurf au-dessus du pôle Nord. Il y avait des trucs très, très visuels. Je voyais bien que c'était pas fort, qu'il était capable de tout faire, mais que c'était pas forcément son truc de prédilection à lui, tu vois, qu'il utilisait en tout cas comme outil pour faire la promotion du sport. Par contre, ce que je voyais, c'était Fred Evans déjà. Je voyais déjà le Flight Club aussi et Omar El Jelan.
Les Babylones,
c'était
ouais.
évident que c'était le free fly. Et je pense que c'est la même chose, comme je te disais, pour 99% des gens. Je pense que tu regardes vite fait en vidéo ou sur des magazines les pratiques qui existent, et même sans que personne t'apprenne. Combien on a ou comment ça marche, tu vois, tous tes yeux, ils vont souvent se poser directement sur ce qui t'attire. Et même si c'est quelqu'un qui c'est le voile contact, je sais que ça, c'était le cas justement de mon pote Fred Plakesi, lui c'est le voile contact. Et c'est, il adorait voir les diamants de fou là quand ils sont 40 ou 50 dans le désert.
C'est
tout
vrai
ça.
Que c'est très impressionnant.
Donc voilà, je pense que chacun, je pense que c'est une évidence.
Ok, petite question, petite anecdote si tu veux. Est-ce que tu te rappelles de la première fois où tu te retrouves tête en bas? Est-ce que tu te rappelles de ce moment?
Waouh! La première fois où ça fonctionne, j'avoue que je me souviens pas à quel moment c'est, parce qu'en fait, comme beaucoup de gens, j'ai essayé un peu tout seul. Et à un moment donné, tu sais, tu crois que tu l'aimes, mais tu dis quelque part, si t'es vraiment honnête avec toi-même, tu dis,
okay.
Bon, ma tête elle est à l'envers. Je sais pas si je suis vraiment comme ça ou si je suis pas en train de faire la banane là, qui avance okay. sur le circule.
Okay.
Et donc, alors le gros plus que j'avais. Et ça, je pense que ça peut aider beaucoup. S'il y en a qui veulent gagner du temps, bah, faites ça, c'est sûr que ça va aider. En tout cas, à mon sens, c'est que je marchais déjà sur les mains, moi, en gymnastique. Je faisais déjà beaucoup de gymnastique aussi. Et je marchais très facilement sur les mains. Donc, je savais déjà où était mon bassin par rapport à mes épaules, ma ligne d'épaule. Et puis, tenir gainage abdominal pour maintenir ça. Donc, j'ai pas lutté trop de temps non plus, tu vois. Olivier Evenot, c'est lui qui me donne le B4. J'avais 240 ou 250 sauts quand j'ai le B4. Je m'étais pas entraîné plus que ça. Alors, à l'époque, c'était peut-être pas les mêmes. On demandait peut-être pas les mêmes choses. Mais en tout cas, il fallait faire des grips tétons, faire des grips tétons bas. Moi, je m'étais entraîné en sauvage avec mon pote Hugo. Et puis, j'ai fait un saut de validation parce que ces sauts-là, on n'en faisait pas beaucoup parce qu'il fallait payer le double saut, tout ça, machin et tout. Et quand je paye mon saut pour voir avec Olivier, il me dit non, mais c'est bon, c'est largement bon, t'es B4 sans problème. Donc pas de soufflerie du tout à l'époque, j'ai jamais mis encore les pieds dans une soufflerie, et je m'étais entraîné avec personne, j'avais fait de mon côté, et puis ça, c'était déjà suffisant. Donc ou il était très gentil, ou tu vois, ça marchait déjà. Tu vois.
Ok, et du coup tu te lances à fond là-dedans, comment ça se passe? T'adores tout de suite, tu te dis tous tes sauts ça va être du free fly. Comment ça se passe?
Alors pour moi, en tout cas à ce moment-là, avoir le B4, c'était juste avoir le droit de faire du plus que juste sauter à deux. Toi, on nous laissait sauter avec Hugo ensemble.
D'accord.
Et c'était tout. S'il y avait des sauts à 3 ou à 4, on n'avait pas le droit d'aller dedans. Donc c'était bien surveillé à l'époque pour ça. Donc en fait, quand j'ai le B4, ça me donne juste la petite permission. Bah tiens, tu peux commencer à faire des sauts à 3, voire à 4 en fonction du saut. Toi. Et ça, déjà, c'était génial. Parce que tu... Ça ouvre, quand tu as fait que des sauts à deux comme moi pendant très très longtemps, quand d'un coup il y a d'autres personnes, il y a deux personnes que tu peux potentiellement aller voir, il y a des niveaux à faire beaucoup, enfin je sais pas, les sorties sont plus rigolotes, il y a tout qui. Rajouter déjà une personne, ça change déjà tout. Donc là, c'est une confirmation en fait. Il n'y a pas de déclic, si tu veux, c'est juste une confirmation que c'est trop fun, que c'est trop génial et je veux faire un maximum de free fly, ça c'est sûr.
12 ans après, du coup, tu décides de créer l'équipe mondialement connue maintenant, Airwax Free Fly, avec Karine, ta femme. Et j'ai une petite aparté par rapport à ça. Comment vous vous êtes rencontrés? Est-ce que dans un saut tête en bas, tu t'es dit c'est bon, t'es tombé fou amoureux? Comment ça s'est passé?
Ah, c'est pas loin d'être ça. Alors, je passais assez rarement à Lyon parce que j'étais déjà marine marchande dans le sud de la France. Et là, c'est un des week-ends où je remonte à Lyon. Et du coup, bah, je m'arrête à Corba pour faire un saut ou deux. Parce que du coup, je pouvais pas sauter régulièrement en habitant entre Nice et Monaco. Et je passe là et je vois Karine, que j'avais jamais vue avant. Je connaissais à peu près tout le monde à Lyon. Et là, je vois cette grande blonde. Je fais, tiens, elle, j'ai jamais vue. Alors, souvent, quand même, quand il y a une nouvelle fille quelque part, il y a plein de gens qui sautent dessus, tu vois. Donc, ouais. Moi, je laisse faire, tu vois, de loin, j'y vais pas, tu vois. Et en fait, j'observe quand même que finalement, il y a personne qui reste trop longtemps près d'elle, tu vois. Elle les envoie tous, machin et tout. Je fais, tiens, c'est marrant, il faut que j'aille voir Lucas quand même, tu vois. Et puis, sur un des avions, ça y est, on est dans le même avion, puis on commence un petit peu à discuter. Et en fait, elle me dit qu'elle elle est en études à Paris, qu'elle aussi, c'est exceptionnel qu'elle soit là ce week-end. Donc on est vraiment tous les deux là en mode genre, bah, on n'est pas vraiment, enfin c'est un coup de chance qu'on soit là à ce moment-là. Et puis voilà, on commence à dire, bah tiens, est-ce qu'on ne peut pas se revoir l'occasion, machin et tout, le week-end prochain ou quoi, tu reviens. Enfin, je sais, il y avait une envie déjà de se revoir si tu veux. Et puis, je ne sais plus si c'est exactement le week-end prochain ou celui d'après, parce que ce n'était pas facile, encore une fois, avec les boulots. Mais on s'est revus. Et puis là, on a dit, bah, y a peut-être un truc sympa à faire. On va devenir potes et tout, machin. Et puis, donc, on est devenus vraiment super potes. On avait plein de trucs en commun, le karaté. Elle faisait aussi beaucoup de karaté. On avait beaucoup de trucs en commun. Et ça devait être deux ans plus tard à peu près. Deux ans et demi, je ne sais plus. Elle est partie longtemps à l'étranger, elle revient en France, et puis elle est revenue me voir. Et puis là, on a commencé à passer beaucoup plus de temps ensemble, et puis on a commencé à s'installer et à vivre ensemble. Et c'est encore un an plus tard, on refait le monde un soir, et elle me pose cette fameuse question, est-ce que j'ai des regrets dans la vie ? Et puis là, au bout d'un moment, je réfléchis quand même, parce que sur le moment, j'ai envie de dire bah non, tu vois. Et puis, ce qui est stupide comme réponse. Et au bout d'un moment, je dis si, c'est vrai que j'ai fait plein de compètes dans plein de sports, un peu pour rigoler d'ailleurs, souvent, hein, jamais forcément avec beaucoup de sérieux. J'en ai pas fait dans le para, alors que c'est vraiment le para que je trouve génial. Et je m'étais un peu piégé aussi, parce que j'avais pris justement le choix de faire cette carrière où j'avais tous mes étés qui étaient pris. Moi, je signais des contrats du 1er mai au 1er octobre. Donc, du coup, bah, pour faire des compètes de para, c'est mort. C'est. Et du coup, voilà, en gros, c'était pas possible. Mon père, comme il cautionnait pas, je me rends compte, ça fait pas très longtemps que je me suis rendu compte, mais je me suis rendu compte que du fait qu'il cautionnait pas du tout le para, inconsciemment, ça me verrouillait un petit peu. J'assumais d'en faire un peu du para, mais j'assumais pas au point que ça devienne un métier ou de la compète, parce que mon père, forcément, ça aurait été le premier à dire, ah bah non, déjà que je trouve que c'est nul de faire du para, en plus, tu veux en faire un niveau supérieur. Donc du coup, voilà, j'avais pas de feu vert à ce niveau-là, donc je le faisais juste comme ça. Et là, en fait, elle me dit, est-ce que t'as des regrets ? Je lui dis, j'aurais aimé faire de la compète en para. Elle me dit, on y va. Allez, c'est parti. Et du coup, je m'attendais pas à ça, si tu veux. D'avoir d'un coup quelqu'un qui est très proche de moi, qui ne veut que mon bien, tu vois, qui me dit, non, mais si t'as envie de faire ça, on le fait. C'était vraiment inattendu. Okay. Et du coup, je dis... Ah ouais, ok, d'accord, attends, faut que je m'organise parce que pour l'instant, je peux pas en faire, faut qu'on regarde avec les boulots, si on peut négocier des... Mais d'un coup, il y a tout un nouveau cheminement qui se fait dans la tête, que je m'interdisais avant, tu vois. Et puis, ça prend du temps quand même, parce qu'elle aussi avait un boulot, tu vois. Et on lance, octobre-novembre, on lance un brainstorming justement sur le nom de l'équipe, tu vois. On va se lancer, on va créer une équipe, et le premier truc, on n'avait même pas fait un saut, enfin un nom d'équipe, tu vois. Et le Airwax, toi, ça vient de là. On était avec un vidéoman, Anthony Maton, qui était semi-pro en windsurf. Énorme niveau. Il aurait pu vraiment faire pro sans problème. Et donc, on faisait tous de la plongée. On faisait un tout petit peu de surf à notre niveau, parce qu'en Méditerranée, on ne va pas se le cacher, on n'est pas des super pros du surf. Et on travaillait dans les bateaux, machin et tout. On a dit, ça serait cool d'avoir un truc qui a une connotation dans le nautisme aussi. Donc on fait ok, aéronautique, para, nautisme, comment on va faire ? Faut trouver un truc, machin. Moi, j'aimais bien, si possible, un truc qui commençait par A ou par R, tu vois, comme Air France, un truc comme ça. Donc on mélangeait tout ça, on cherchait. Et à un moment donné, je sais plus d'où ça vient exactement, je pense que c'est Karine, on repense au Sex Wax, tu sais, les pains de cire, là, de surfeur. On dit, ah ouais, ça, Sex Wax, c'est clairement surfeur, tu vois, ouais. C'est identifiable hyper facilement. Et en plus, c'est un génie le mec à l'époque, parce qu'au lieu de faire des rectangles, il avait fait des ronds. C'était wax, je sais pas quoi. Donc lui, il a dit, si je mets sexe devant, ça va attirer les yeux des gens, ils vont acheter à mort. Il est devenu millionnaire, le mec. Bref, du coup, on en parle encore aujourd'hui, tu vois. Donc on a dit, tiens, sex wax et les surfeurs, on remplace sexe par R, ça y est. Donc c'est né comme ça notre nom d'équipe, tu vois.
Et les airwax sont créés, incroyable.
Voilà, et
incroyable.
Du coup, on s'est lancé. Donc 2 mois après, on partait pour notre premier entraînement en Arizona, parce que du coup, on voulait que notre premier entraînement, ça soit dans ce qui était pour nous la maison mère du parachutisme, quoi.
Ok, et à ce moment-là, est-ce que tu lâches tout ce que tu as à côté pour vraiment te lancer parachutisme, ou comment ça se passe, ouais ?
Non, alors là, du coup, on en est vraiment au stade, on va commencer, on va voir, tu vois, parce que on a quand même, moi, à cette époque-là, donc on a vraiment 20 kilos d'écart. Moi, je fais mes 80 kilos, bien pesé, voire un poil plus. Et Karen, elle fait 60, donc 20 kilos d'écart. En plus, moi, je suis plus petit. Au début, les sauts, c'est chaud. Hein. En plus, il y a beaucoup de construction encore à l'époque. On a un petit peu arrêté ça, mais à l'époque, il y avait encore les foot-to-foot, les doubles spock, beaucoup de construction comme ça. Donc, il faut vraiment voler très près, très serré. Ceux qui font du vol vertical, ils connaissent, ça leur parlera mieux, tu vois, ceux qui font du VFS. Et du coup, bah, les différences de poids, elles sont, bah, c'est quand même des contraintes, on va pas se cacher, c'est pas idéal, quoi. Donc là, 20 kilos d'écart, c'était pas évident. Et donc, bah, on fait ces 2 semaines. Nous, on adore. Même si on est en difficulté, on adore. Et déjà, on est en train de trouver sans arrêt des façons. Moi, je mange jambes écartées ou je fais des eagles hyper lents, elle les fait rapides. On trouve qu'il y a un confort à travailler tout le temps avec les mêmes personnes, même s'il y a une difficulté de poids ou de façon d'être ou de façon de voir les choses. D'avoir sans arrêt la même personne, c'est génial. Parce que du coup, les repères, quand même, ils s'installent. C'est souvent quand même la même chose. Et c'est pour ça qu'on recommande à beaucoup de gens de faire de la compète, s'ils veulent passer un niveau dessus, 1 an, 2 ans, 3 ans, même s'ils ne visent pas à faire une intégration en équipe de France, même s'ils ne visent pas à faire un podium, juste faire 2-3 ans de compète, c'est génial, parce qu'au lieu de faire que des sauts fun, c'est très bien le fun, hein, mais faire que des sauts fun ne fait pas forcément monter le niveau technique. Sauter avec la même personne, que ce soit en freestyle ou en free fly ou en VRV ou en voile contact, n'importe quoi, sauter avec la même personne, c'est la seule façon de t'apporter des réponses sur ce que tu fais toi, ta précision à toi, ta déplacement à toi. Donc ouais, c'était vachement bien de faire ça.
Du coup,
donc c'était le premier entraînement.
Ok, tu pars en Arizona, tu me dis un peu que tu es dans le commencement de tout ça. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous envisagez les premières compétitions ? C'est des petites compétitions en France ?
Il y a eu une détection 2009 en soufflerie, donc on s'y inscrit.
Okay.
C'était très révélateur de l'importance de travailler avec la soufflerie. Nous, on n'en faisait pas vraiment de la soufflerie à l'époque. Et là, on voit déjà, il y avait déjà les cristals installés. On voit clairement que le niveau technique, il est costaud. Et on se dit, bah, si on veut atteindre ce niveau technique-là juste en sautant, là, on part pour 4-5 ans. Hein. Et on dit, bah, si on veut essayer de faire ça en 1 an ou 2, de se rapprocher de ce niveau-là, il faut faire comme eux. Parce qu'eux, en plus, ils continuent à en faire. Donc, si nous, on ne s'y met pas, c'est impossible. Donc, on comprend, c'est une évidence qu'il faut absolument intégrer la soufflerie dans l'entraînement. Donc, c'est pas évident, parce que déjà, tu fais face à beaucoup de frais quand tu te lances dans la compétition. Tu réalises que, ah ouais, il y a 3 sauts à travailler parce que t'as le libre et t'as 2 imposés. Ah ouais, bah du coup, ben, ça serait bien de faire au moins 100 sauts de chaque. Attends, mais du coup, ça fait 300 sauts. Ah, mais du coup, mais comment on casse dans le calendrier 300 sauts? Attends, il faut mettre de la soufflerie. Ah, mais il faudra un deuxième parachute. Ah, mais il faut les combis. Enfin, d'un coup, la liste, elle explose sans arrêt. Tu es là, waouh. Mais c'est évident qu'à un moment donné, il faudra trouver une solution pour la soufflerie. Donc, ce stage-là, il est intéressant au moins pour ça. On nous offre un peu de temps de vol, mais surtout, ça nous fait nous rendre compte de ça. Après, bah, nous, on s'inscrit dans tout le circuit. Il y avait Coupe de France et Championnat de France. Et à ce moment-là, il y a encore la N2. Donc la N2, c'était bien. Ça te permettait de ne pas te battre tout de suite contre des monstres. Tu vois. C'est l'intérêt du truc. Tu vois. Elle a été enlevée très longtemps. On a tout fait pour leur dire qu'il ne fallait surtout pas faire ça. Mais c'est très important d'avoir une N2. Tu vois. L'antichambre de ce que tu peux éventuellement prétendre à faire plus tard. Donc en N2, en fait, ça marche bien. Certainement qu'on a de la chance, certainement qu'on s'y est pris peut-être plus au sérieux que les autres. Il faudrait vraiment faire une... regarder précisément pourquoi, mais on arrive à gagner ce premier championnat de France en N2. Et ce truc-là, c'est colossal, en fait. Parce que quand on donne une médaille d'or sur un truc dans ta première année dans laquelle tu te lances, en plus, il y avait un titre à l'issue, parce que du coup, tu es champion de France de N2. Pour nous, ça nous a... ça nous a aidé à dire, OK, on va pouvoir négocier avec nos jobs respectifs. Bah, regardez, ça a marché, on arrive à faire ça. Du coup, ça te donne des arguments, si tu veux. Et pour toi et pour ton boulot, pour dégager plus de temps, c'est ta récompense de tout ce que tu as aussi mis en place en amont. Parce que tous ces frais, tous ces temps passés à se lever hyper tôt le matin, à sauter le plus tard possible, à plier, tout ça, c'est très déjà contraignant, même sur une première année. Donc, c'est la récompense, c'est la confirmation. Donc, avec ça, déjà, tu pars sur un autre truc, toi. Et du coup, en 2010, donc on a intégré, comme je te disais, la soufflerie. Ça y est, on commence à en faire, alors tant qu'on peut. Hein. Mais du coup, en 2010, quand on retourne, on s'est débrouillé pour... On doit avoir 12 heures de vol. Et en fait, quand on fait la détection à juste N plus 1 de la première fois, évidemment, c'est un gros déclic pour les dirigeants de la Fédé à ce moment-là. Enfin, ceux qui étaient en charge des détections, ils font « Ah ouais !» Cette équipe-là, non seulement ils ont gagné un titre là, mais ils prennent les choses au sérieux, ils se prennent en main, clairement, puisque regarde, en plus, ils sont hyper forts maintenant, enfin, toute proportion gardée, ils sont hyper forts en soufflerie, et disons qu'ils nous ont mis en équipe de France espoir. Donc ça, c'était un autre truc qui disait, ok, allez, c'est bon, c'est lancé. Donc, si tu veux, tu peux pas à ce moment-là faire autre chose que te mettre dedans à fond, quoi, corps et âme, parce que t'as trop eu de confirmation du destin qu'il y avait un truc à faire, quoi. Donc, c'est pour ça que ce début-là, il est très fort. C'est toujours délicat à expliquer. D'ailleurs, merci, tu me donnes l'opportunité et le temps de le faire comme il faut. D'habitude, on dit juste, oui, ça, on a cartonné au début, mais on n'a pas le temps de dire pourquoi ou comment. Donc, les gens, ils pensent qu'on a eu un truc infus. C'est juste qu'on a fait les sacrifices qu'il fallait, quoi.
Comme j'en ai eu avec Julien, j'aimerais bien aussi après revenir sur ce point de sacrifice, parce que je trouve que c'est hyper important. Et voilà, les gens voient les vidéos sur Instagram, ils se disent, ouais, c'est incroyable. Même des gens, des fois, voient des vidéos en wingsuit, en base jump, ah, je vais faire ça, alors qu'il y a des heures et des heures, de travail derrière. Tu le disais, en 2010, t'intègres du coup l'équipe de France Espoir, t'arrives deuxième au championnat de France National 1. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous regardez et vous vous dites, on commence à avoir le potentiel pour aller se battre avec les meilleurs mondiaux?
Non, pas encore. Non, en fait, t'es omnibulé. C'est marrant parce que c'est tout est une histoire d'échelle, tu vois. Et je sais pas si c'est un problème français ou si c'est un problème sportif ou j'en sais rien, mais tu mets du temps, je trouve, hein, à comment dire, appréhender toutes les échelles qui existent. Et t'es pris au piège au début dans des bulles qui t'empêchent de voir le big picture, tu vois. Donc, par exemple, au tout début, nous, on voyait que l'équipe 1. Pour nous, c'était... alors, dans les magazines, il y avait encore les Babylones, si tu veux. Et puis, nous, bah, quand on se pointait, c'était notre référence du top niveau, tu vois. Donc, c'était déjà tellement éblouissant que c'était, bah ouais, eux, c'est des monstres. Puis, si on arrive à s'en approcher, ça veut dire que c'est bien, quoi. Aucune prétention à aller se battre contre les Américains ou les Russes ou les Anglais, tu vois. Bah, c'est beaucoup trop tôt. Donc, c'était... Voilà, ça prend du temps. D'abord, on essaie juste de se rapprocher le plus possible d'eux. Et c'est super moteur. Hein. C'est un super moteur, ça.
Ouais, surtout que les Babylones, c'est quand même une très, très grosse équipe. Ouais, ça a été une très, très grosse équipe pendant les années du début du freefly, hein, si je me trompe pas.
Et les cristals aussi. Hein. Les cristals, à ce moment-là, nous, ils nous servent beaucoup de références parce qu'ils sont... les Babylones, ils font même plus les championnats de France, hein, à ce moment-là. Hein. Donc, c'est vraiment les cristals, à ce moment-là, ils sont notre jauge, en fait. Notre jauge et puis le truc à suivre, à se dire, voilà, faut qu'on se rapproche de ça, toi. Alors, t'as toujours quelque part, tu dis, putain, faudrait les battre, parce que c'est ta façon compétiteur de dire, bah, du coup, le but, c'est pas juste d'être tout le temps derrière, c'est d'essayer de les battre. Et en même temps, comme tu sais l'avance qu'il y a, tu sais, bah, que c'est quelque part pas vraiment possible, ce qui est pas la bonne manière de penser, d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, c'est un moteur énorme que de suivre les cristals à ce moment-là, c'est sûr.
En 2011, tu intègres, si je me trompe pas, officiellement l'équipe de France.
2011, oui, c'est ça, ouais.
Comment tu l'apprends?
Alors, ça, c'était pas génial, ça.
Ah, c'est vrai?
Ouais. Désolé, l'anecdote, elle est pas ouf. Coupé. Non, alors, on est à Vannes, à ce moment-là, en entraînement. On allait beaucoup à Vannes. Et en fait, il y a une autre équipe. Alors, on devait normalement être équipe 2, équipe B, je sais plus comment ça s'appelait à ce moment-là, de facto. Et en fait... l'entraîneur de l'époque avait pris la décision pour faire, je sais pas si c'était du suspense ou je sais pas quel était le but exactement de la manœuvre, parce que vraiment aujourd'hui je comprends toujours pas. Mais on était en concurrence avec une autre équipe qu'on avait fumé complètement sous Fleury, tu vois. Pour nous, ils existaient même pas. Et puis en compète, comme nous on se battait à chaque fois pour se rapprocher des cristals. Quand on nous annonçait qu'on était en compète avec eux, on a fait, ah ouais, bah, putain, on avait même pas fait gaffe que potentiellement, toujours été devant. Donc c'était très bizarre et malaisant ce truc. Mais bon, faut faire confiance au truc, ok, ben faudra se départager avec eux. Donc on nous dit que pendant les 6 mois de l'année jusqu'au championnat de France, je sais plus si c'était la première Coupe de France, championnat de France, mais en gros, on va être en compétition avec eux. Et la décision sera prise au championnat de France, au résultat du championnat de France, de qui sera officiellement, c'est l'équipe 2. Donc nous, on se fait pas trop d'illusions, mais en même temps, c'est un peu vexant, tu vois. Mais ok, ben on va attendre, ok. Et en fait, de eux-mêmes, ils abandonnent en cours d'année. Je sais plus si c'était avril ou mai, mais en fait, il y a un des mecs... Nous, on avait déjà en plus fait l'effort de trouver un deuxième sac. Donc ça y est, on fonctionnait par doublette. Eux, toujours pas. Donc on continuait en plus, si tu veux, à partir, tu vois. Donc... Un des compétiteurs de leur équipe a dit, bon, ça sert à rien ce qu'on est en train de faire, moi j'arrête, parce que je perds beaucoup de temps, beaucoup d'argent, on n'arrivera jamais à faire le truc. Et du coup, ça fait couler l'équipe, du coup. Et l'entraînement d'après, du coup, bah, nous, on se dit, bah, super.
Ouais.
Ça y est, on va enfin avoir. Parce que du coup, je crois qu'on pouvait payer les sauts que 10 euros ou on avait 20 ou 30 sauts offerts. Enfin, il y avait une récompense intéressante à être enfin équipe 2, si tu veux.
Donner, de l'argent.
Bah, on commençait à être pris en charge, si tu veux. Tu vois, pas comme une équipe 1, mais il y avait un truc à aller chercher, quoi. Et c'était intéressant. Ça nous allait permettre ou de sauter moins cher ou de sauter plus. Dans les deux cas, c'est génial. Et là, il n'y a aucune information qui nous est transmise. Et l'équipe, bah, on sait qu'elle a abandonné. En plus, elle est même plus là. Donc, physiquement, tu vois bien qu'ils sont plus là, tu vois. Et il y a rien. Et donc, on attend le mercredi, au bout de 3 jours, pour on tire la manche chez l'entraîneur et faire, bah, désolé, mais bon,
okay.
Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, je sais qu'apparemment, t'es triste, mais il se passe un truc là.
Okay.
Et en fait, ils ont dit oui, effectivement, nanana, on va regarder. Ils ont passé 2-3 coups de fil, je sais pas qui, je sais pas pourquoi, mais une heure après, ils sont venus nous voir en disant oui, bah écoutez, c'est bon, vous êtes équipe 2. Et c'était presque. Pour eux, en tout cas, c'était une nouvelle un peu triste. Je sais pas pourquoi. Et pour nous, c'était yes. Mais ouais. Si tu veux, ça s'est passé comme ça. Donc okay. Tu fais bon.
Ouais.
C'était pas le plan de base. Désolé. Mais
j'avais demandé ce que tu ressens. J'imaginais quelque chose d'autre chose. Je comprends la réaction, bien sûr.
C'est pas grave. Ouais, mais ouais, tu dis non, bon. C'était pour nous, c'était génial. Ouais, il y a pas eu un pot, il y a pas eu de champagne, il y a rien eu. C'est pas grave. C'était comme ça.
Par la suite, tu participes à plein de compétitions. On le remarque aujourd'hui un peu avec le palmarès que t'as. Si je me trompe pas, 30 compétitions, 30 podiums, c'est ça?
Ouais, je suis plus proche de 50, mais si tu veux, je me concentre sur les compétitions free fly et les deux de freestyle que j'ai fait en plus. Mais en fait, j'ai fait beaucoup de compétitions en soufflerie, j'ai fait deux championnats de France en soupe. Si je compte tout, on est plus proche des 50, mais comme ma carte de visite, si tu veux, c'est vraiment le free fly, ouais, je mets mes 30 compètes free fly et puis voilà quoi.
Ok. Sans compter 2018, est-ce qu'il y a un titre parmi les autres qui te marque plus que les autres et pourquoi ?
2016, dans les positifs, parce que j'ai un truc négatif en 2015, mais on va rester sur du positif là. Donc en 2016, quand on arrive justement à être champion de France, avec vraiment un écart costaud. C'est-à-dire qu'en 2016, on n'est toujours pas équipe de France 1 et là, on bat l'équipe de France, mais tellement, avec tellement d'écart, qu'ils ne peuvent plus nous cacher. Là, ça fait, bon, ben, il va falloir qu'on fasse quelque chose avec eux, parce que là, ils sont là, tu vois.
Okay.
Donc ça, c'est un moment qui est sympa. Parce que tu dis, bon, ben, là, ça y est, on a tout ce que tu fais depuis 6 ans, là, ça y est, c'est, je veux dire, même si tu es aveugle, tu viens qu'un bandeau sur le truc, les mecs, ils sont là, ils ont bossé, ils font des trucs, quoi.
Ok. Venons à 2018. En octobre 2018, viennent les championnats du monde en Australie. Tu pars du coup avec Karine, ta femme, Baptiste Welsh, sur la Gold Coast, à côté de Brisbane. Avant d'entrer dans la compétition, comment sont passés les entraînements? Est-ce que tu y vas pour gagner? Quel est ton état d'esprit avant la compétition?
Waouh! Bon, là, on y va vraiment avec un état d'esprit de ninja ou de force spéciale. Tu vois.
Okay.
Là, on y va vraiment très, très vénère. Ça fait clairement 2 ans qu'on s'entraîne pour ce truc-là. Alors, tu me diras, ça fait 10 ans qu'on s'entraîne pour ça, si tu veux. Mais là, ça fait 2 ans qu'on est le couteau comme ça, entre les dents.
Et du coup, comment se passent un peu les premiers sauts de la compétition? Je crois que vous êtes en tête. Si...
2018.
Sur les, on va dire, 6 premiers sauts avant le 7e.
Je sais que tu vas pas me croire. Faudrait que je regarde le tableau. Je sais que tu vas pas me croire, mais j'en sais rien. Parce qu'en fait...
J'en suis sûr, t'as 53,5 points.
Ah bah toi, tu sais
bien. Et l'équipe de France B a 53 points.
Ouah.
Sur les 6 premiers sauts.
Alors, je vais t'expliquer pourquoi je m'en souviens pas. On avait fait le ménage dans plein de trucs. Par exemple, moi, j'ai mis du temps avant de me connaître. Et c'est 2015, ce que j'ai fait exprès de passer tout à l'heure. C'est moi qui nous fait perdre le championnat de France. Sur une sortie. Ce que je crois que j'avais Nico Goutin à côté de moi. Et je crois que je voulais genre l'impressionner à la sortie. Alors que qu'est-ce qu'il s'en fout de voir comment je vais sortir de l'avion, toi. J'avais mis 2 fois plus d'énergie qu'il fallait pour sortir. J'ai embarqué tout le monde, j'ai touché la porte de l'avion, on est parti en toupie, le saut il a explosé dès le début. Donc on a perdu, on a fait la boulette des Russes, tu vois, en 2012, toi. Donc tu vois, ça tourne. Donc si tu veux, moi j'ai mis beaucoup de temps à me connaître, à savoir qu'émotionnellement, je pouvais mettre trop d'énergie, trop d'énervement à compenser un stress ou une frustration ou trop d'émotions, je sais pas quoi. Ce qui est débile. Mais tout le monde va réagir à sa façon. Il y en a qui vont s'effacer, il y en a qui vont abandonner leurs muscles, il y en a qui vont... Voilà, l'important c'est de le savoir. Et de petit à petit, trouver une parade pour compenser ça. Donc moi, avant que je sois juste clean, à faire juste ce que je suis censé faire, à avoir compris que sur un saut à 3, par exemple, en free fly, eh ben, que tu fasses ton meilleur saut de ta vie ou que tu rates complètement, c'est que 30% du saut. Il y a deux autres personnes qui sautent à ce moment-là. Donc, de toute façon, toi, ce que tu feras, c'est 30% de tout ce que tu dois faire. Donc, voilà, revois à la baisse des trucs de fou que tu as envie de faire et fais plutôt du teamwork, tu vois, vraiment. Donc, en fait, une fois que tu as compris tout ça, que tu te connais, que tu sais ce que tu es capable de faire dans le bien ou dans le mal et que tu arrives à te mesurer tout ça, bah, ça prend 10 ans, en l'occurrence pour moi, tu vois, ça a été très long. Mais du coup, en 2018, on savait chacun ça. On a dit, OK, on met juste ce qu'il faut. On est là pour s'attendre. On est là pour que ça soit clean, pour qu'on sorte à chaque fois tout le truc. Et surtout, on regarde plus ce que font les autres. Ça sert à rien, c'est une pollution visuelle absolue. Si tu prétends vouloir faire de la compète, c'est ce que je dis aussi à tous ceux qui se lancent en compète. Déjà, pour tes 10 premières compètes, arrête de vouloir faire quoi que ce soit, ça sert à rien. Il te faut un bagage de 8-10 compètes avant de savoir ce que tu es capable de faire, où tu peux, voilà. Donc, détends-toi. Fais tes 8-10 premières compètes, voilà, et tu verras après, tu vois. Et le deuxième conseil, c'est en fait de, et c'est ce qu'on avait fait là en Australie, qu'on ne faisait pas avant. Et c'est dur à faire, hein. Ne regarde pas le score des autres. Et des fois, c'est dur, parce que des fois, ça passe sur les télés en géant, ou alors si t'es en compétition de soufflerie, les mecs sont assis à côté de toi, ils passent juste avant ou juste après. C'est très dur à faire, mais si t'arrives à te détacher de ça, c'est fantastique, parce qu'en fait, ça ne peut que polluer ce que tu dois faire. Normalement, ce que tu dois faire, que ce soit en indoor ou en outdoor, comment ça pourrait être dépendant de la prestation de quelqu'un d'autre qui passe avant ou après ? Ça n'a pas de sens. Tu t'entraînes sans la présence de ces mecs, t'as atteint le niveau X ou Y que tu as ce jour-là, tu peux te faire que impacter négativement par ce qui se passe à côté. Même si tu dis « Ah, oh, ils ont fait des erreurs, tiens, ça va être bon, tu vas te mettre à voler avec plus d'énergie ou plus vite ou je sais pas quoi. Oh, » laisse tomber, regarde pas. Donc vraiment, on l'a fait. Et des fois, on se sauvait les uns les autres. « Ah, putain, regarde pas là-bas. » Okay. On ne regardait pas ce qui se passait à côté.
Okay.
Et d'ailleurs, des gens venaient nous voir des fois en disant « Ah, tais-toi, tais-toi. » Okay. Donc je sais pas ce qui s'est passé en Australie.
Du coup, arrive le dernier round.
Ouais.
J'imagine que quand même, tu sais que même si tu regardes pas, tu sais que t'es très bien placé. On t'appelle pour l'embarquement. C'est ton dernier saut. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? Est-ce que tu peux nous décrire ce qui se passe ? C'est le dernier saut, 2018. Alors, t'as sacrifié 10 ans de ta vie pour ça.
Ouais.
T'es parti pour gagner. Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, on fait exprès de pas se dire on est parti pour gagner, mais c'est vrai, comme tu dis, il y a une espèce de truc qui grossit, qui devient vraiment très fort. Hein. Et c'est horrible. Alors, on fait numéro 6, saut numéro 6, comme des machines, des robots, et saut numéro 7, pareil. En plus, nous, on a fait le choix de faire un début de saut hyper dangereux. À chaque fois, j'explique pas dangereux physiquement, mais hyper dangereux en construction, c'est-à-dire que si le saut au début, il rate, on fait une roue pendant que Baptiste fait une rotation dans l'autre sens, et moi, je vais m'installer sur le dos de Karine. Quand ça ne marche pas, ça, on peut pas récupérer le saut. Là, on perd 15 secondes du saut parce qu'elle est en freinage max, moi je suis en accélération max. Si je glisse de ça, c'est sortie d'écran au moins d'une personne, voire des deux, parce que Baptiste, du coup, il faudra choisir quelqu'un. Enfin, c'est... Les fois où ça n'a pas marché, je ne les ai même pas postés, ces trucs, parce que ça fait plus mal au cœur, ça ne fait même pas rire tellement que c'est horrible. Tu vois. Donc, voilà, c'est des sauts, c'était une stratégie voilà, très, très aventurière qu'on avait choisi de prendre. Bon, bref. Et sur le saut numéro 7, le dernier, où je fais exprès de me dire, faut que je sois une machine, faut que je sois un robot, faut juste que je répète et tout machin. Même des fois, je pensais beaucoup à Fred Fugin. Il m'avait beaucoup inspiré pour la construction de ce saut-là, en tout cas pour le début de ce saut, parce que il avait aussi un saut similaire où il avait un tête-tête à l'époque à Evans. Et j'étais allé le voir, bien sûr, pour lui dire, t'as des conseils et tout. Et parce que moi, j'aimerais faire un tête-tête aussi, à l'époque aussi, hein. Et lui m'avait juste dit, ben fais-le. Alors c'était le conseil de Fred. Hein. Eh ben fais-le, mec. Ok. Mais non, mais c'est très bien, parce que ça veut dire, trouve-toi ce qui te va. Je pense que c'est ce que je voulais dire. Non, mais voilà, ça voulait dire, vas-y, tu vas y arriver. Si tu as envie de le faire, tu y arriveras de toute façon. Donc ça prend plus ou moins de boulot, mais voilà. Donc, on part pour ce 7e saut. Et juste dans la montée, je me répète, et à chaque fois, 2000 mètres. À 2005, je fais exprès d'arrêter un peu de répéter pour respirer, pour faire tout. Et j'essaie de chasser mes idées pour penser à rien. Et après, je me remets un petit peu dedans, tu vois.
Regardez le paysage. Parce que
sinon, tu fais que de la répétition dans l'avion, tu deviens fou, en fait. Ouais. Et au moment où j'essaie de reculer un petit peu de secondes, de regarder un peu ce que font les ricains qui sont devant et tout ça, machin et tout, je m'aperçois qu'en fait, ce stress-là, il est horrible. Parce que du coup, toi, j'ai serré à fond mon parachute pour qu'il me tienne bien, machin et tout. Et j'ai un moment là de, où j'ai une sensation hyper désagréable qui m'en réveille en me disant, mais ce stress-là, enfin, l'état dans lequel je suis là, je pourrais pas faire ça tous les jours. C'est, tu te tires une balle, quoi. C'est horrible. Donc, en fait, j'étais en même temps, comme tu disais, peut-être en train de finaliser l'aboutissement d'une vie sportive, tu vois. Peut-être enfin là que ça allait arriver. Et en même temps, c'est très désagréable, hein, parce que tu dois tellement faire gaffe à tout, tu dois tellement être parfait, et comme tu dis, c'est tellement l'aboutissement de tellement de temps, d'argent, d'énergie et tout, tu dis, il est interdit qu'il y ait un truc qui se passe là, parce que sinon c'est l'anéantissement émotionnel, quoi. Donc du coup, je me suis remis en bulle, ok, bah tu sais quoi, répète le saut, ça sera mieux que de penser à quel point c'est horrible. Donc c'est, mais pour te dire, le niveau de stress de ce saut-là, c'est un truc de fou. Donc peut-être...
En partant, mais...
Bah, ouais, mais du coup, alors... Tu vois, ça me fait un écho, j'y pense que maintenant, c'est drôle, hein, tu me fais repartir dans des trucs. Est-ce qu'au final, ce fameux saut, cet état d'esprit dans lequel j'ai fait mon premier saut, où j'avais ce super moniteur qui m'a dit, si tu veux, tu peux faire exprès de te couper un peu de tes émotions, est-ce que c'est pas un truc qui est revenu et qui m'a servi, tu vois, parce que je me rends compte en même temps que maintenant, que je répétais des trucs très précis et j'essayais de déshumaniser le truc, tu vois. De dire, bah, si y a un truc qui monte parce qu'il y a un micro problème de niveau, de pas dire, ah mon dieu, il faut que je remonte aussi, ou alors ouais, non, t'es un robot, tu fais sans âme, toi. C'est presque un peu triste parce que tu passes à côté. Alors c'est sûr qu'on n'a pas trop vu le paysage, hein. Okay. C'était très beau, mais on était voilà, mais du coup ça permet de voilà, de en tout cas pour moi, de vivre mieux le stress, quoi.
Ok, du coup, avec 62,7 points,
ok,
tu deviens champion du monde de freestyle pour la première fois. On voit une photo de toi et Karine. Le point levé quand vous apprenez que vous avez gagné, avec tous ces heures d'entraînement,
ouais.
Tu ressens quoi à ce moment précis? Ouais. Je crois que c'est un peu
indescriptible. Il y a trop de choses. Ouais. Alors, c'est très très dur à décrire. J'arriverai. Toi, j'ai même l'émotion qui monte. Mais j'essaie. Attends, comment te mettre ça en mots? Là, t'as un truc, t'as un immeuble qui te tombe dessus parce que tu. T'as un espèce de relâchement évident parce que tu, c'est comme si c'est un petit peu martial, tu vois, ce que je vais raconter, mais c'est un peu comme si t'étais dans un combat, tu vois, une bataille, une guerre, un combat, tu vois, et vraiment, et tu frappes, et tu aussi, tu te fais frapper, je veux dire, c'est un combat, et c'est comme si à ce moment-là, d'un coup, le mec en face, ça y est, il y a le juge qui a dit non, c'est bon, il se lèvera plus, là, il est out, et je peux poser les gants, je peux enlever l'armure, tu vois. Et ce truc-là, à ce moment-là, il est. Tu te rends compte, en fait, ça fait 10 ans que t'as ce truc-là, en fait. Tu dis, ah ouais, ah ouais. Et tu te rends compte aussi que ça y est, tu vas être un peu plus respecté par certains qui continuent, ah ouais, mais machin et tout, parce que t'as toujours les détracteurs. T'as toujours les jaloux, t'as toujours les gens qui sont là, oui, mais, oui, mais. Et c'est souvent des gens, d'ailleurs, qui font même pas le même choix, qui n'ont même pas le même parcours de victoire et qui sont quand même là en train de critiquer ou quoi. Donc, tu as ça aussi. Tu dis, ah bah tiens, bah là, du coup, voilà, c'est bon. On pourra enfin ne plus avoir à se battre aussi contre ça. Tu as un gros relâchement de plein de choses.
Et tu es champion du monde.
Ouais, mais tu vois, par exemple, tu n'as pas une espèce de fierté qui se met. Tu n'as pas une espèce de... Tu es content... T'es content pour tes coéquipiers. Moi, j'ai la seconde à dire, toi, genre, ça y est, voilà, on va enfin, on est enfin arrivé en haut de la montagne, toi, t'es sur l'Everest. Ça y est, t'es sur l'Everest. Et la seconde d'après, je vois Karine et Baptiste qui s'étaient déjà chopés, tu vois. Que moi, ça m'a. Il y a eu une boule de feu, tu vois, j'ai dû reculer. D'ailleurs, je me suis barré du micro. Et du coup, la seconde d'après, c'est mes coéquipiers. Donc, si tu veux, ça part pas si loin que ça, si tu veux, non plus. Et faut que je les attrape, juste pour les remercier aussi avec mon énergie à moi, de dire, ah, oh, tiens, on a gagné la guerre, quoi. Notre guerre à nous, en tout cas, ça y est, on a gagné, quoi. C'est difficile à décrire. Hein. J'ai beaucoup de mal à décrire.
Ouais, je peux comprendre. Et c'est comme quand on demande aux gens de décrire ce qu'un saut en parachute fait. C'est hyper compliqué.
Ah ouais, c'est compliqué.
C'est très compliqué de décrire la sensation des gens qui n'ont jamais sauté, de dire, bah. On peut pas le dire ce que ça fait. Et je pense que c'est même un peu plus fort. Je pense que même toi, c'est même un peu plus fort quand tu deviens champion du monde. C'est quand même une étape au-dessus avec les années de sacrifice.
C'est les années qui font mal, je pense. Et je pense. Putain, mais ça fait vraiment venir plein d'émotions, c'est fou. Je pense vraiment que c'est les années qui font la différence, en plus des années où c'était difficile pour nous. Parce que pour l'avoir vu dans d'autres sports ou même dans celui-ci avec, avec d'autres, d'autres individus, un mec qui est champion du monde au bout de 2 ou 3 ans, il peut pas vivre ce qu'on a vécu. C'est pas possible. Tu vois, même s'il a bossé comme un malade, pendant 3 ans et pendant 10 ans, c'est pas pareil, tu vois. Les sacrifices financiers, les sacrifices même corporels sur 3 ans et sur 10 ans, c'est pas pareil. Ça peut pas être pareil. 10 ans, c'est vraiment un bloc où tu es forcément sur l'Everest au bout de 10 ans. C'est pas possible autrement. C'est un acharnement, en fait, qui se conclut heureusement là au bout de 10, parce que ça aurait pu être 12 ou 14 ou 16. Hein. Là, ben, heureusement, ça a été 12, mais ça a été 10. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas le comparer. Ouais, et tu peux, t'as du mal à le raconter du coup.
Ouais, je pense que c'était un des moments forts de ta vie. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que ça. Tu as 4 records du monde en grande formation. En 2015, record du monde de tête en bas à 164. En 2016, record du monde tête en haut à 55, puis à 72. Et tu le rebats en 2019 à 84. J'imagine que ces records du monde sont très compliqués à réaliser. On peut d'ailleurs le lire dans une des interviews du Paramac que tu as faites. Est-ce qu'il y en a un qui était plus compliqué que les autres ?
Waouh, les records du monde. Alors déjà, je tiens à dire, c'est un truc qu'on adore faire. On devait déjà faire celui... c'était Fred Fugin qui nous avait invités d'ailleurs. Je crois que c'était en 2012. Et là, vraiment financièrement, on ne pouvait plus. On était déjà à fond, on ne pouvait pas aller en plus à Chicago faire un record du monde. Donc on en a raté un, le tout premier, où on a été invité. Pour des causes financières. Mais après, ce qu'on a vécu en 2015, c'était absolument dingue parce que justement, c'est un moment où tu te bats plus contre les Américains ou les Russes ou les Anglais ou les Polonais. Et tu es tous ensemble pour essayer d'atteindre un même objectif, ça fait du bien. Parce que la communauté para, elle est géniale, hyper bienveillante, elle est fantastique. Je pense qu'on a une des meilleures communautés sportives du monde. Hein. Mais du coup, voilà, faire un record du monde, ça permet de vivre ça pleinement. Et un souvenir qui ressort... En fait, moi, je vais continuer à en faire toute ma vie des records, ça, c'est sûr, parce que c'est trop agréable d'essayer tous ensemble de battre un truc. Et surtout, je veux vraiment, au moins avant d'arrêter, qu'on ait passé la barre des 100 en tête en haut et qu'on ait passé la barre des 200 en tête en bas. Et tu vois, ils ont fait un 400, nos homologues en VR, tu vois.
Ouais.
C'est un truc de fou quand même, ouais. Quand tu réfléchis à ouais. 400 personnes, toi.
En même temps dans le ciel.
Et du coup, au niveau difficulté, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas du coup, le 200 en tête en bas et le 100 en tête en haut. C'est mathématiquement, il y a tout pour le faire. Alors, le problème, c'est pour ça, dans l'article que tu cites, c'est que stratégiquement, je ne sais pas pourquoi ça. J'ai beaucoup de mal à trouver les explications. Mais on dirait que les organisateurs, décisionnaires en tout cas, ont un peu oublié qu'est-ce qu'ils faisaient, que ça pouvait marcher, tu vois. Par exemple, il faut normalement monter 10% par 10%, tu vois. Et si tu arrives plus vite, bah, tant mieux. Passe à la suite, tu vois. Mais quand on faisait ça, bah, les records, ils tombaient assez vite. Et là, par exemple, record du monde, ça fait 2 fois sur 5 ou 6 ans là, qu'on y va et qu'on n'arrive pas à battre le record du monde. Alors que, comme je le dis dans le document, si tu suis les trucs qui existent déjà depuis quasiment 20 ans, les façons de faire, on aurait pu en battre plein. Le 164... on aurait pu le battre 5 ou 6 fois. On a fait des non-officiels, des 170 ouais, on en a fait peut-être 30, et des 180 peut-être 15, et des 190, on a dû en faire 2 ou 3. Pourquoi on n'a pas de record ? Parce que on a un mec qui veut faire 200. Sauf que tu passes pas de 160 à 200. Et je veux dire, dans n'importe quel sport, il n'y a pas besoin de faire du parachutisme. Si tu veux faire plus de 10% d'un coup, putain, où c'est que la première fois, t'avais vraiment pas fait grand-chose ? Ou c'est que tu t'es méga super entraîné, parce que ça soit en course à pied, en musculation, ce que tu veux, 10% par 10%, c'est déjà un gros step. Donc c'est très bizarre que les gens partent en tête baissée à vouloir d'un coup battre des gros chiffres, enfin atteindre des nombres comme ça énormes. Mais à mon sens, on peut sans problème faire un 100 en tête en haut et un 200 en tête en bas. Il faudra juste que stratégiquement, on se remette à faire des trucs un peu plus sensés, un peu plus faciles et on va y arriver, quoi. Mais ça, ouais, je vais en faire partie.
N'hésitez pas à aller suivre Greg encore sur les réseaux sociaux, parce que tu me disais un peu avant l'interview que juste après, tu repars à l'autre bout du monde dans le but de rebattre un record du monde, c'est ça ?
Alors, on en a 4 cette année, des records.
Ok.
Alors, cette année, on a 4 records. On va en Floride en tout premier. Là, c'est dans 10 jours. Hein. Okay. On va y être dans très peu de temps. On va essayer de battre le record d'État de tête en haut. Et c'est génial parce que c'est même un entraînement en grandeur nature pour le record du monde. C'est parfait. Tu vois. Donc, l'année dernière, on a eu la chance de faire 42 et 47. Du coup, forcément, les mecs ont dit « Attendez, en plus, l'année prochaine, c'est une année de record du monde. Venez, on essaie de passer à la barre des 50. » Donc, nous, on a dit oui tout de suite. On sera là, les gars, c'est trop bien. Donc, on repart. Alors, ce ne sera pas à Sébastien. Au début, on était un peu triste parce qu'on adore cette drop zone. Elle est magnifique à l'est de la Floride. Ce sera à Zephyr Hills, côté ouest. Et on va essayer de passer la barre des 50. Franchement, je pense qu'on va y arriver. Déjà parce que le niveau américain est vraiment super élevé. Ils en font beaucoup plus que nous, du Big Way. Et en plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à intégrer le record du monde qui aura lieu en novembre en Arizona. Donc, je pense qu'on va passer la barre des 50. Ce qui sera génial parce que c'est limite c'est des records d'Europe. Au niveau échelle, je parle, hein, qu'on réalise là-bas. Donc, c'est trop bien de pouvoir faire ça. Tu vois. Donc, on aura ce record d'État en Floride en mars et le record du monde en Arizona en novembre. Donc, ça, c'est de la tête en haut. Après, on va essayer d'établir un record du monde de nuit en tête en bas en Arizona. Donc, pour l'instant, l'objectif, c'est un 40 way. Donc, on serait 40 de nuit dans le désert en Arizona. Donc, ça, j'espère que ça va bien marcher parce que c'est un truc de fou. Hein. Quand on m'a proposé le truc, record de nuit en tête en bas, ouais, tu fais pas ça tous les jours. Donc, on va essayer de faire ça. Et puis, on a un record de France, encore une fois en tête en haut, en août, à Nancy. Donc, on en est à 21. Donc, voilà, je sais pas trop l'objectif. Ça serait bien de faire un 25, on va dire, tu vois. Ça serait même très, très bien de faire un 25.
J'espère que ça ira. Et en plus, si ça fera des superbes images. Oui. Donc, j'espère que tu y arriveras. Aujourd'hui, du coup, tu as décidé d'arrêter de la compétition. Si je comprends bien, moins d'avion.
Oui, alors oui, c'est vrai que pour l'instant, au niveau avion, oui, t'as raison. Niveau avion, j'ai arrêté parce que je continue à en faire en soufflerie. Ouais. Mais oui, niveau avion, pour l'instant, Baptiste, en fait, nous a avoué après le championnat du monde, justement, en Australie, que c'était vraiment très dur comme rythme. Lui, ça faisait 5 ans qu'il s'entraînait avec nous. On a entre 12 et 15 semaines par an, sans solde, du coup, sans vacances, sans voir sa chérie. Du coup, quand ça fait 5 ans que tu n'es pas parti en vacances avec ta chérie et que tu gagnes beaucoup, beaucoup moins d'argent que prévu, on peut comprendre qu'avec une belle médaille d'or à la maison, tu peux prendre une pause. En tout cas, moi, je l'avais pas forcément vu venir parce que je me suis dit, on est parti pour je sais pas combien de temps. Mais du coup, je pouvais pas forcer Baptiste et je comprends tout à fait son choix. Du coup, on voulait pas former un autre mec. C'est très long à former quelqu'un pour faire un championnat du monde. Et du coup, on dit, tant pis, on va faire autre chose. Ce qui s'est avéré être, même si c'était très dur à vivre pour moi au début, parce que moi, je suis vraiment compétiteur dans l'âme, toi. Au final, c'était très bien comme virage, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a rien qui est prévu pour l'après. C'est-à-dire que la France, il n'y a pas que dans le parachutisme, dans plein de sports, la France, elle est capable de créer des champions du monde dans plein de trucs. Ils ont la machine pour. Hein. Ils ont des belles fédérations. Il y a le ministère des Sports qui aide bien. Il y a plein d'associations. Il y a une belle logistique qui est mise en route pour ça. Par contre, il n'y a pas beaucoup de fédérations qui ont prévu l'après. Tu vois, il n'y a pas d'attaché presse. Il n'y a pas d'agent sportif. On ne va pas t'envoyer faire un 20h. On ne va pas t'envoyer être sponsorisé par X truc. Du coup, tu ne vas pas pouvoir permettre de faire grossir ton image et de pouvoir mettre en avant ton sport, tu vois. Et là, du coup, c'était le désert, tu vois. Et du coup, on a mis un an à se rendre compte, parce qu'au début, on était encore en décélération, compétition, machin et tout. Et on a mis un an à se rendre compte qu'en fait, il se passerait rien, en fait. Et là, tu fais, il ne peut pas rien se passer. C'est un sport extraordinaire, c'est hyper visuel, il y a de plus en plus de pratiquants. On arrive à 60-70% des gens qui, quand ils commencent le parc, ils veulent faire du free fly. Ça peut pas. Un champion du monde, il peut pas dire merci, puis ranger sa médaille dans un tiroir et disparaître. C'est trop dommage. Et t'as même un devoir, t'as une responsabilité, j'ai même envie de dire, en tant que médaillé, de promouvoir ce sport aussi, d'inspirer ce sport pour les jeunes qui arrivent. Ils ont envie, normalement, de rencontrer quel est le champion d'Europe ou le champion du monde et de dire oh, trop bien, vous avez fait comment et, ah ouais, c'est super et tout ça. T'as un dynamisme. Hein. Tu peux pas te cacher en disant hey, salut, au revoir, merci. Donc voilà, donc on a découvert tout ça et ça prend un temps de dingue. Donc au final, tu vois, on a fait une transition un peu de force, mais qui est maintenant la promotion sportive. Et on est bien content de faire ça au final. On a des retours super positifs. Alors, plus d'ailleurs hors France, bizarrement, Parce qu'à l'intérieur de la France, au final, la communication, elle est pas ouf. Je sais pas vous comment vous voyez ce qu'on fait en France, mais c'est pas du tout là où on est le plus vu. Mais en tout cas, d'une manière générale, dans le monde entier, on a de plus en plus des super retours. Genre, ah, c'est trop bien, on voit vos images, machin. Et on reçoit plein de messages. Alors Karine en reçoit même encore plus que moi. De gens qui se mettent à faire du para grâce à nous, qui se mettent à faire de la compète grâce à nous, qui se mettent à faire des trucs comme ça. Et ça, ça fait super plaisir. Parce que c'est clairement de l'après, c'est pas du tout le champion du monde, c'est tout ce qu'on a fait après, tu vois. Donc comme quoi, ça valait le coup de continuer à faire la mise en avant du sport.
Je vois qu'il y a aussi un autre côté, toi, qui est, j'ai l'impression, un peu le transfert des compétences que tu as pu acquérir. T'es beaucoup dans le coaching. Est-ce que c'est aussi une façon de promouvoir le sport pour toi ? Ou voilà, je sais que par exemple, à la vidéo par exemple avec Tristan ou avec...
avec Charles.
Avec Charles, qui aujourd'hui a permis peut-être aussi un peu de promouvoir le sport, de mettre en avant ce sport qui est... Et aussi un peu méconnu, où il y a beaucoup de choses qui peuvent être mal pensées, mal dites. Aujourd'hui, le parachute ne s'ouvre pas, on sait que ça n'existe pas. Donc voilà, est-ce que ça, c'est un peu aussi ce transfert de compétences permet de promouvoir un peu le sport également ?
Forcément, ouais. Forcément, à mon sens. Mais là, pour le coup, c'est vrai que c'est, quand on passe en mode cours en soufflerie, c'est un peu plus aussi pour s'amuser, nous. Et parce qu'en fait, on a la chance d'avoir une clientèle vraiment internationale. Donc ça, c'est trop drôle. Parce que nous, on insiste là-dessus, on veut vraiment faire des camps de 5 jours. Et on passe toute la semaine avec les gens qui viennent avec nous. Donc on prend 6 ou 8 personnes. Et toi, le tout dernier, par exemple, là, on pourrait dire en Espagne, j'ai des Polonais, des Roumains et un Hongrois. C'est génial. Toi, tu passes des semaines, tu rigoles, tu apprends sur les cultures des gens. Enfin, c'est incroyable. Et donc, si tu veux, en plus d'avoir développé... une façon de faire. Nous, on a au début, on a suivi vachement IBA, après on a suivi un peu Tunnel Instructeur, on a tout mélangé, on a fait à notre sauce. Aujourd'hui, on a une progression qui est à nous, qu'on aime bien et qui, à notre sens, elle marche bien. Mais si tu veux, ce moment-là, c'est un moment déjà pour voler aussi nous, partager en live avec des gens qui ont fait la démarche de vouloir venir apprendre avec nous, tu vois, et qui viennent de loin en plus des fois, tu vois. Donc c'est un moment, quand je te disais, c'est un moment où on reçoit, là, c'est un moment où on reçoit, tu vois. Là, on est. Tant pis, on va moins faire de stories ou de publications ou de je sais pas quoi ou des vidéos. Par contre, les moments qu'on va partager là, c'est trop cool. C'est de la promotion dans un sens, oui, parce que je pense que eux, quand ils rentrent chez eux, ils vont faire cette espèce de promotion. Mais c'est une promotion dans une couche inférieure et qui est dans un second temps. Donc c'est un peu une promotion aussi, je pense. Mais c'est surtout à ce moment-là, c'est du partage à 100%, mais en live, quoi.
Avant d'en terminer avec cette interview, comme je te l'avais dit, j'ai une dernière partie qui s'appelle la partie anecdote. Je vais te poser une question, tu as le droit à une seule réponse et tu dois m'expliquer pourquoi.
Ok.
Ton plus beau saut.
Ah, le plus beau saut ?
Ouais.
Impossible. Oh putain, comment tu peux répondre ? Comment tu peux répondre à un truc comme ça ? En plus, j'ai plein de trucs parasites qui arrivent là qui n'ont rien à voir. Ah putain, non parce qu'ils m'ont fait faire un saut, alors faut surtout pas que je réponde ça en plus beau saut, mais c'est parce qu'il faut que ça sorte de ma tête. Ils m'ont fait faire un saut, on a fait un saut à poil au Kenya, j'en avais jamais fait, donc c'est pas du tout mon plus beau saut, mais tu vois par exemple c'est le genre de truc qui arrive là, tu dis, okay. Bon, le plus beau saut, putain, c'est compliqué ça. J'en ai plusieurs qui se confrontent quand même là, de façon plus sérieuse, c'est les sauts où t'as un privilège incroyable, tu vois. On a sauté au-dessus d'Ayers Rock, et c'était une histoire d'en plus, un concours de circonstances plutôt, qui était vraiment dingue. C'est-à-dire que 15 ans avant d'aller faire le championnat du monde, moi, j'ai eu la chance de partir déjà en Australie et j'étais allé voir le Uluru, Ayers Rock, là, le rocher qui est au milieu, qui est vraiment l'emblème de l'Australie. Donc, c'était dingue de voir ça en vrai. Et en retournant là-bas, quelque part, j'avais en tête d'y retourner déjà. Donc, j'avais déjà pris les billets. Je crois que j'avais fait je crois que Karine ne le savait pas, mais j'avais déjà pris les billets pour qu'on aille là de toute façon après la compète, quelle que soit l'issue de la compète. Et ça, par contre, je savais pas encore comment j'allais faire, mais je m'étais dit, je vais trouver un pilote à soudoyer d'hélicoptère ou de montgolfière ou d'avion ou de trampoline ou de catapulte. Je voulais trouver peut-être une façon de sauter là-bas en me disant, bon, ça va être chaud, mais on va essayer, tu vois. Et en fait, avant même que la compétition soit finie, avant même que le championnat du monde soit fini, avant les deux derniers sauts, il y a un des chauffeurs, il y avait plein de bénévoles qui travaillaient là-bas. Un des chauffeurs du bus qui nous amenait prendre l'avion là, à l'aérodrome, nous dit, bah là, je me permets de rentrer en contact avec vous maintenant parce que je suis pas sûr qu'après on se revoie. Et vu que maintenant la compétition elle est bien lancée, tu vois, je me permets de briser un peu votre truc concentration, machin. Je suis le propriétaire de Skydive Uluru. Je viens juste de créer ce truc-là, c'est tout nouveau, tout neuf. J'ai vu que vous avez fait les combinaisons au thème aborigène et tout machin. D'ailleurs, merci, c'est trop bien pour notre pays, bravo, tout ça, machin. Et du coup, je serais honoré que vous veniez, si vous avez le temps, sauter au-dessus d'Ayers Rock. Et là, je fais « What ?» Donc là, en fait, c'est dingue, en fait. Ouais. C'est le genre de truc, cadeau de l'univers, tu sais, c'est tellement gros, tu dis, mais attends, c'est une caméra cachée. Parce que là, il y a un mec qui vient de me dire que non seulement une structure qui existe officielle, que c'est lui le boss, et en plus, il aimerait bien qu'on s'arrête, il nous invite à sauter. Donc ça, c'était un saut un peu dingue, et pour cette raison-là, c'était un saut un peu dingue. Et je pense qu'à chaque fois qu'on a eu la chance de faire un truc dingue, il y avait ce truc-là. Parce que c'est pas tout le monde qui le fait, donc tu te dis, t'es une espèce de... En tout cas, moi, je le vis comme ça. T'as l'impression que t'as une responsabilité supérieure. Tu dis, bon, alors, c'est pas tout le monde qui le fait. Faut faire un beau saut. Faut rapporter des belles images. Faut faire un truc bien. Faut bien... Toi, et puis surtout, faut énormément remercier les mecs qui te permettent de faire ça. Toi, t'as une responsabilité en plus. Rio, c'était dingue. Parce que... Y a pas d'hélico, bizarrement, à Rio. Moi, je pensais que, vu que c'est au bord de la mer et qu'il y a plein d'immeubles, que chaque immeuble avait un héliport. Non. Il n'y a pas du tout, c'est peut-être à cause de l'aéroport international, il n'y a pas d'activité hélico trop à Rio. Le seul truc qu'il y a, c'est la police. Il y a un petit truc vers Praia da Reserva, mais qui est très loin de Rio au final. Donc en fait, c'était la police qui nous larguait, quoi. Donc là, c'est pareil, toi, c'est 5 heures du mat. Ouais. T'as une autorisation du ministère de la Défense, ouais. c'est un flic qui te largue au-dessus de Copacabana. Tu te dis, ouais. C'est quoi ce truc, toi ? Donc les villes en plus, hein, les villes définitivement. Pour le projet Ultimate 4D, on a pu sauter au-dessus de Lyon et de Marseille. Bah, tous ces trucs-là, toi, tu me dis, c'est quoi ton plus beau saut ? Tu peux pas, parce que t'as répondre, parce que tous ces cadeaux-là qui sont le résultat d'une carrière entière consacrée à ça, c'est tous des cadeaux. C'est tous des cadeaux, à un moment donné, de tout ce que t'as pu accomplir et de la confiance que les gens ont en toi et du crédit qu'on t'accorde et tout ça. C'est presque comme si tu disais, tiens, t'as 10 gamins, c'est qui est ton préféré ? Et tu fais, waouh ! Donc c'est okay. Je suis désolé, je veux pas botter en touche comme ça, et je ne dirais pas que c'est mon saut à poil au Kenya, mais c'est très dur de répondre à quel est ton saut préféré.
Ok, merci pour cette réponse. Ton pire saut maintenant, si
t'en as. Ah voilà, putain, je l'ai pas vu venir sur la
merde. Si t'en as.
Mon pire saut, oh là 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 là.
Bon, un saut qui t'a marqué de pas d'une bonne manière, si tu préfères.
Le pire saut que j'ai vécu, c'était au Puy-en-Velay. J'ai pas sauté beaucoup au Puy-en-Velay, mais c'était à l'époque où on s'entraînait. On est parti faire un entraînement là-bas. Et c'est quand Karine s'est cassé le fémur. Et en fait, elle se pose, on pose quasiment en même temps. Moi, j'avais Stiletto 107. Il y en a, ils savent même pas ce que c'est, je suis sûr. Et Karine, elle avait la Cross 99. On a, je crois que j'ai 1000 sauts, elle a 800 sauts, un truc comme ça. Et elle est frustrée de ne pas faire assez de distance opposée. C'est en 2009. C'est difficile à l'époque d'avoir un vrai retour sur comment faire mieux en soupe. C'est un peu nouveau, c'est un peu élitiste. Les gens, ils veulent pas trop... voilà. En plus, le matériel... Enfin bref, c'est difficile d'avoir des performances. Et même si tu en recherches, il n'y a personne qui te dit trop comment faire. Et Karine, en fait, frustrée. En plus, comme c'est une fille qui demandait à des garçons comment faire, elle a peur des garçons... Peut-être moi le premier lui disait, bah, je sais pas, tu sais, t'as pas envie de dire de bêtises, ou alors tu fais de la rétention d'infos. Enfin, au final, elle avait pas de réponse. Donc, elle a juste pris la décision de faire beaucoup plus bas et beaucoup plus fort, tu vois. Les deux à la fois en plus. Donc, tu vois, c'est vraiment pas une bonne idée. Et en plus, elle a fait une espèce de 180, qui est en plus la pire orientation possible à faire pour se poser. Et donc, elle tape le sol à fond la caisse à l'horizontale, quoi. Et elle aurait pu clairement y rester, si tu veux. Mais moi, je me pose. Je le vois du coin de l'œil, sa voile orange faire ça. Je me pose. Et déjà, inconsciemment, je lui dis, tiens, c'était un peu bas, tu vois, ce que j'ai vu du coin de l'œil. Mais bon, moi, je suis occupé à faire mon posé à moi, déjà. Et je dérape, et puis je me pose, et puis je me retourne. Et là, je vois beaucoup de gens courir. Et on sait tous que dans une drop zone, quand t'as des gens qui courent, c'est pas génial, tu vois. Et beaucoup de gens courent vers Karine. Et j'ai Edouard Henry qui vient vers moi. Et qui vient vers moi en mode justement pour que moi je cours pas, tu vois. Donc je comprends tout de suite qu'il y a un truc ultra grave avec Karine. Et là, t'as un truc horrible qui se passe en toi. Tu dis, ouais, c'est grave, c'est très grave. Tu sais pas, et tu t'interdis même au niveau imaginaire de penser à trop de trucs tellement que ton cerveau est capable d'envisager le pire. Et je me retrouve à partir quand même en courant, il n'arrive pas à me retenir parce que je veux y aller quand même, tu vois. J'ai mon parachute accroché, hein, mais il n'existe même plus mon parachute. Il y a ma voile qui traîne derrière, je cours comme un malade. Donc, déjà, heureusement, elle n'est pas morte, tu vois. Et elle est méga sonnée, je vois que la jambe elle est pliée en deux, tu vois. Bah, ça, c'est dur. Ça, c'est dur parce que t'es quand même très rassuré à ce moment-là de dire, bon, elle n'est pas morte déjà, mais en même temps, tu dis, ouais, c'est chaud, quoi. Et voilà, ça, c'est des sauts. Alors, pour le coup, c'est pas le saut, c'est la fin du saut, mais ça, c'était très dur. C'était trop dur pour nous, pour notre coupe, pour notre équipe, pour beaucoup de choses. Mais ça fait partie de notre sport, là. Pour le coup, même si c'est très rare et qu'on fait tout pour l'éviter, ça fait partie de notre sport.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Tout le monde dit aujourd'hui, on est fou de sauter d'un avion parce qu'il y a plein de dangers. On fait tout pour minimiser ouais. À 99,9% des risques. Malheureusement, il reste des choses, je pense, un peu qui peuvent mal se passer. On vient bien pour ma prochaine question. Okay. Est-ce que tu te rappelles de ta première libération ?
Ouais. Alors, je vais parler de ma deuxième aussi. Parce okay. que la première... Moi, j'ai ouvert mon secours à mon 40e saut. J'ai pas pu vraiment libérer parce que moi, j'ai eu ce fameux truc très rare de ces parachutes de location. Et tu sais, les mecs, ils ont fait un 8 avec la drisse. Et du coup, le cladris tire l'aiguille. Ben, la drisse, elle était prise dans le rabat de droite. Donc, elle pouvait pas tirer l'aiguille. Donc, je pense que c'est quand que tu laisses l'extracteur. Et que tu veux juste enlever l'aiguille parce que je sais pas quoi, et que tu la remets et que tu fais 8 à ce moment-là. Je vois pas comment tu peux faire autrement. Mais bon, bref. En tout cas, là, 40e saut, je tire, il se passe rien. Et du coup, tu te dis même, attends, mais j'ai rêvé que je venais d'ouvrir ou j'ai ouvert. Toi, tu remets en question le geste que tu viens de faire. Tu vois. Et je me tords et tout pour essayer de voir. Et je vois mon extracteur gonflé à bloc qui tire, mais vraiment, il se passe rien. Toi. J'essaie de bouger un peu. Je fais, voilà, oh mais c'est pas bon, c'est pas bon. Donc, je fais pas non plus 50 trucs parce que je suis un peu, je flippe, tu vois. Donc, je fais la procédure quand même en entier au cas où. D'ailleurs, je me rappelle de me dire, tiens, j'ai pas envie de l'acheter, mais bon, on m'a dit de l'acheter, ok, bah je la jette. Et après, je fais le secours. Donc, secours sec à Macboule, ça fait mal. Hein. Ça ouvre bien. Mais du coup, c'est pas vraiment une libé, tu vois. Mais c'était à mon 40e saut. Ça compte pas vraiment, à mon sens, comme une libé. 500e saut. Une autre libé. Okay. Bah, du coup, là, une libé. Et à l'époque, c'était marrant. Mais... Donc, je suis au Luc, je filme deux copains qui s'entraînent à faire justement du free fly. Et ouais, on faisait des breaks un peu tardifs. Et en plus, eux, à ce moment-là, ils sont en train d'essayer de faire un maximum de points. Je pense clairement qu'on finit le saut à 1000 mètres. Hein. C'est-à-dire qu'on est encore à 3 mètres les uns des autres, on est encore à 1000 mètres. Toi. Donc, un break beaucoup trop tard, les débiles, tu vois. Et je dois tirer à 700, un truc comme ça. Et puis là, je m'étais dépêché. Et puis la stiletto que j'avais, elle ouvrait vraiment fort. C'était pas agréable, tu vois. Et j'essayais plein de techniques pour essayer de retarder l'ouverture à l'époque de ce truc-là, pour la ralentir. Et ce coup-là, j'avais fait, tiens, je vais essayer de faire 50 tours, tu vois, d'un saucisson, tu vois. Super, faut surtout pas le faire. Donc en fait, au bout d'un moment, tu remets tes commandes, tu remets tes freins en fait, devant ton bord d'attaque. Et en fait, je me suis créé un nœud papillon, quoi. Donc la belle suspente coiffante qui fait vraiment un truc. Donc je tire en plus, ça tombe pile poil sur le saut où t'es par terre, donc il fallait pas le faire. C'est toujours les enchaînements qui vont bien, tu vois. Et je lève la tête et je vois ce truc là. Et en plus pour rajouter, ouais, je faisais plein de conneries avant. J'avais de la musique dans les oreilles. À cette époque là, c'était tiens, on essayait un peu tout. On avait les gros casques Krawa et j'avais Offspring dans les oreilles à fond la caisse. Donc j'ouvre et ça avait la musique à fond, je vois un gros nœud papillon, je fais « Oh la vache, c'est quoi ce truc ?» Et je me dis « Bon, moi, je vais pas me poser avec ça. » Parce que je commence à me dire « Mais si je prends les commandes, et si d'un coup ça part à gauche ou à droite ou machin ou quoi, et je regarde et je suis par terre, toi, je suis en train d'approcher les 500 mètres, je fais « Oh là là !» Et en fait, un peu en mode punition, genre je m'engueule moi en disant « Mais t'es trop con, la prochaine fois, prends beaucoup plus de marge. » Et sur vraiment, je m'en veux. Hein. Et du coup, je fais Lucky Luke, je fais hyper vite, machin. Du coup, ça, c'était ma première vraie libé. Qui faisait bien peur aussi, mais qui, en même temps, je m'en voulais un petit peu d'avoir fait ça. Donc.
Bah, ça apprend les leçons qui font ouais. que t'en es arrivé là. Est-ce que si tu devais aujourd'hui retenir qu'un seul moment de toutes ces années de parachutisme ?
Moi, j'ai beaucoup aimé, tu vois, la première fois où je suis allé au Brésil, parce que l'accueil qu'on a eu là-bas était dingue. Il y avait il y avait une bienveillance, un respect, il y avait un truc de fou, et ils nous voyaient tous comme des super-héros, alors que eux, ils ont eux-mêmes un niveau de dingue. Et pour le coup, ils ont beaucoup moins de moyens que nous. Ils ont qu'une soufflerie, c'est une 12 pieds en plus, tu vois. Donc on peut pas dire qu'ils peuvent vraiment acquérir un niveau super élevé grâce à ça. Et ils ont pas forcément autant de moyens. Ça coûte très cher, je veux dire, par rapport à la valeur qu'on peut avoir un saut en France, ça coûte encore plus cher là-bas au Brésil. Donc c'est encore plus dur de sauter là-bas. Et en fait, il y a tout ce mélange-là de trucs. Quand je suis arrivé au Brésil la première fois, super accueil, super bienveillance, des gens qui sont hyper forts déjà. Et je sais pas. Et ça, et le fait d'être au Brésil, invité aussi pour aller au Brésil, qui était déjà une des conséquences un peu cadeau de tous les sacrifices qu'on avait fait nous avant, tu vois. Parce que autant tu vas faire beaucoup de sacrifices, et à la même hauteur, tu auras la récompense qui ira derrière, normalement, tu vois. Donc du coup, c'était un moment vraiment dingue. C'est la première semaine que j'ai passée là-bas. Tous les matins, je me disais, c'est incroyable d'être enfin passé maintenant de ce côté-là, de voir ces gens-là qui sont contents que tu sois là, qui sont de découvrir en fait des gens, parce que c'est pas tout le monde qui connaît la communauté parachutiste brésilienne, tu vois. Bah, tout ça, c'était un cadeau, un gros cadeau aussi.
Ok. Si mes infos sont exactes, tu as sauté aujourd'hui dans plus de 38 pays.
Non, c'est trop vieille l'info là.
Ah, un peu moins du coup.
43,
ok, ouais. Encore plus du coup. Visité plus de 140 zones du coup, je me...
160. Ah mais c'est trop vieux, tes infos. Ouais, ça je garde le compte. Je compte pas tout, mais ça je compte, ouais.
Est-ce qu'il y a un saut que tu rêverais de faire s'il en reste un?
Ouais. Alors ce qui est marrant, c'est... moi j'aime bien aussi le saut auquel t'as pas encore pensé. Enfin, c'est une idée... c'est une idée qui vient régulièrement, ça, c'est me dire, putain, mais ça se trouve, t'as même pas encore eu l'idée du saut qui te ferait halluciner, toi. Mais c'est vrai qu'on continue. Alors, là, c'était une grosse leçon à Rio, parce que ça a coûté cher. Et toi, on n'est pas arrivé à le montrer aux gens. Et du coup, je sais qu'il y a des gens qui arrivent à sponsoriser des trucs en disant, bah tiens, regardez, on a fait ça, c'est un budget de 5 ou 10 ou 15 000. Du coup, bah, si vous venez, on peut refaire machin. Mais nous, on en est au stade d'avant, tu vois. On n'est déjà pas pris vraiment au sérieux. On n'est pas considéré et pas encore compris vraiment. Donc, on n'arrive pas à avoir des budgets pour faire des sauts compliqués. On n'arrive pas à avoir des sponsors. Tu vois, on est encore vraiment au stade d'avant. Du coup, par exemple, j'aurais bien aimé faire le Machu Picchu, par exemple. Toi, dans la foulée de Chichen Itza et de Rio, ça aurait été génial, toi. Mais en fait, tu fais, attends, s'il faut encore qu'on sorte, nous, beaucoup d'argent et au final, c'est que pour nous... y a pas d'urgence, c'est-à-dire on peut le faire plus tard, tu vois. Donc du coup on est revenu en arrière là-dessus et tous les sauts incroyables qu'on a envie de faire, je sors pas toute la liste parce qu'il y a des trucs un peu dedans qu'on veut pas forcément dévoiler, mais du coup on dit bon ben si on arrive à franchir l'étape qu'on n'arrive pas à franchir, peut-être qu'on ira à nouveau faire tous ces sauts qu'on a envie de faire. Par contre, il y a un truc que j'aimerais bien faire cette année, que là je peux dire, c'est d'aller avec Omar Al-Ejelan sauter sur l'Everest, parce que mon 10 000e saut il va enfin arriver, tu vois. Alors, tous mes homologues ont commencé en 97-98, ils ont passé les 10 000 sauts il y a bien longtemps. Mais comme j'ai passé beaucoup trop de temps dans la soufflerie, je suis un peu à la bourre. Donc, ils arrivent que maintenant, c'est comme ça. Et voilà, faire mon 10 000e avec Omar sur l'Himalaya, ça serait dingue. Parce que 10 000e Himalaya, je trouve, je sais pas, j'avais l'impression qu'il y a une cohérence et que ce serait trop bien, tu vois. Ce serait mon Himalaya à moi, tu vois. Mais du coup, voilà, ce qui est difficile, c'est encore le budget. C'est un gros truc, donc on va essayer de voir si on ne trouve pas un méga VIP à amener là-bas. Mais ça serait, voilà, si tu me demandes, à court terme, un saut de dingue, ouais, ça serait ça. À être en face de l'Everest pour mon 10 000e saut.
Allez tous sponsoriser Greg, s'il vous plaît.
Non, ils n'ont pas d'argent.
Qu'on voit les images, s'il vous plaît. C'est une demande de Parasquad, s'il vous plaît, voilà.
Alors, ouais, trouvez des gens qui ont de l'argent. Gardez de l'argent pour sauter, vous.
Ouais.
Non, mais merci.
Pour finir, est-ce que tu auras un conseil à donner à des personnes qui ont beaucoup moins de sauts que toi, dans le parachutisme, même autant de sauts que toi? Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ces personnes?
Alors définitivement, pour ceux qui ont envie de faire une carrière dans le para, il faut le faire. À mon sens, il y a deux façons différentes d'avoir une carrière dans le para. Soit tu vas être moniteur, du coup c'est bien d'être, ça prend un peu de temps, mais c'est bien d'être moniteur pack, tandem, et même pourquoi pas pliage parachute de secours. Comme ça, tu peux travailler toute l'année. Et tu vas bien vivre du para. Il faut avoir un peu toutes les casquettes, mais ça va marcher. Soit tu fais la filière compétiteur qu'on a choisi nous. Et du coup, bah, Tu fais de la compétition en para, du coup tu prends un peu de renommée, tu prends beaucoup plus de technique, du coup ben, les gens ils ont envie de voler avec toi et tu deviens moniteur en soufflerie, du coup tu prends cette filière là, tu vois, instructeur en soufflerie puis moniteur en soufflerie pour avoir les deux casquettes, c'est bien. Donc c'est deux façons qui marchent très bien. Après il y en a qui veulent juste être packer, le temps de payer juste leur pack et leur tandem parce qu'ils veulent garder un vrai boulot à côté. Un autre boulot à côté, plutôt dire un vrai, c'est pas un faux. Hein. Mais voilà, il y a tout qui fonctionne. En tout cas, gardez votre envie de faire. Et quel que soit ce que vous visez de faire, ça marchera pour vous. Le truc qui est important à comprendre pour moi, c'est qu'il ne faut pas vous faire abîmer votre rêve, quel qu'il soit. Toi, il n'y a pas de niveau plus élevé ou moins élevé que d'autres. Mais il ne faut pas vous faire abîmer vos rêves par d'autres gens. Parce que ce que vous avez envie, c'est vous qui le ressentez, pas les autres, tu vois. Donc, faut aller voir les personnes qui sont déjà en train de faire ce que tu es en train de faire ou qui peuvent t'aider à atteindre le truc. Et les autres, faut pas forcément les écouter, même si des fois, c'est des gens très proches. La plupart du temps, quand tu as une idée un peu farfelue, moi, pour toi, c'était le cas pour mes parents, pour le parachutisme, des gens qui t'aiment bien et qui ont beaucoup de bienveillance pour toi peuvent être les personnes qui t'empêchent le plus de faire quelque chose. Ah, tu vas pas faire ça, pourquoi tu me parles de ça, c'est... Tu vois, ils comprennent pas d'où ça vient, ton envie. Et du coup, pour te protéger, ils pensent que c'est pour le faire, ils vont presque t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire. Donc ça, des fois, il faut être capable de ne pas écouter les gens qui sont de ton premier cercle à la base et d'aller tant pis chercher les gens qui sont déjà en train d'évoluer dans l'univers dans lequel tu as envie d'aller. Et c'est eux qui auront les réponses et les encouragements que tu attends, en fait. Ça, c'est pas facile à faire comme démarche, donc j'invite les gens à le faire, quoi.
Merci beaucoup, Greg.
C'est cool.
Pour le temps que tu m'as accordé.
Beaucoup trop parlé, désolé.
N'hésitez pas, surtout, je vous conseille tous d'aller suivre Greg sur ses réseaux sociaux. Ils seront dans la description, bien sûr. Allez voir toutes ses vidéos, c'est vraiment hyper impressionnant. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Et voilà, nous touchons à la fin de cet épisode de Parasquad. Merci à toi, Greg, qui a pris de son temps pour m'expliquer toutes ces histoires incroyables. J'espère que ça vous a donné envie de regarder le ciel autrement. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur nos réseaux sociaux Parasquad Media pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. À bientôt et bonsoir.